enseignemoi.com.
Enseignemoi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseignemoi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseignemoi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Avant que je fasse mon enseignement, je vais faire un petit bout d'autre enseignement, qui sera sur les finances. Oui. Aucune arme forgée contre moi ne pourra prospérer. Les finances. Allez, on va regarder un petit peu. Parce que c'est le temps des offrandes. Des dîmes et des offrandes. C'est quoi la différence entre la dîme et les offrandes? Eh bien, la dîme, c'est le dixième de nos revenus. C'est très clair. Les offrandes, c'est ce que nous donnons en plus. En plus. Pour des occasions spéciales. Quelles qu'elles soient. Où nous avons à cœur de dire, tiens, pasteur, j'ai une offrande pour l'église parce que j'ai envie de bénir mon église locale. Amen. Je veux dire une chose. Ça, c'est dur au début. Vraiment, c'est, moi, j'ai eu un mal de chien. Vraiment un mal de chien avec ça. Pendant des années, je ne comprenais pas du tout les lois du royaume. Et comme je ne comprenais pas les lois du royaume, là, je commence un petit peu à les comprendre. Mais c'est de la dynamite, finalement. Et quand on commence un petit peu à les comprendre, vous savez, quand vous avez mangé dans un super restaurant, vous n'avez pas trop envie d'aller dans le McDo du coin après. Vous avez remarqué ça? Hein? Enfin, pour ceux qui aiment bien la bonne nourriture. C'est normal. Si vous allez manger régulièrement à un super resto, où vous étiez servi aux petits oignons, super truc, hein, les Français, nous sommes les meilleurs du monde, je vous garantis. N'allez jamais dans un autre pays pour essayer de bien manger, vous ne mangerez jamais nulle part correctement. Il n'y a qu'ici où on mange bien. Il n'y a que deux choses que je regrette de la France. C'est les jolis bâtiments et la nourriture. Ça, c'est les deux choses les plus difficiles parfois. Mais je ne mange pas énormément quand j'arrive ici, mais j'en profite. On va lire 2 Corinthiens 9. Nous avons une immense responsabilité. Et franchement, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas l'immense responsabilité que nous avons. Il y a d'ailleurs même des pasteurs, ils n'arrivent quasiment pas à parler de finances dans leur église. Mais je vais vous dire une chose. Si vous voulez une bonne église locale, la température financière, c'est quelque chose d'important. Vous ne pouvez pas avoir une bonne église locale si les gens ne sont pas des donneurs. C'est clair.
Amen.
J'aborde des sujets qui sont douloureux, pasteur. Pardonnez-moi. C'est moi qui ai demandé à le faire. J'hésite pas du tout à parler de finances. Vous savez, dans mon église, en général, tous les cultes du dimanche, je fais une exhortation de 15 à 20 minutes sur les finances. On va me dire, oh, prédicateur de la prospérité. Non. Prédicateur des lois du royaume. On a besoin d'être complètement transformé au niveau de nos mentalités. C'est un gros problème que les gens ne réalisent pas. Moi, j'étudie beaucoup les ministères, d'une manière générale. Bon, c'est clair, la première nation du monde qui finance l'évangile, c'est qui, nous le savons? Les États-Unis. Boum. Tout à fait. Ils déversent des centaines, des millions, des billions, comme ils disent, des milliards de dollars tous les ans pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Et c'est une nation, vraiment, actuellement. Moi, j'ai vécu aux États-Unis dans 93. Et en fait, 93. Et en fait, aujourd'hui, je vois l'église américaine qui a beaucoup plus avancé encore, qui s'est beaucoup plus établie. Vraiment, ils font un super boulot. On peut ne pas aimer le style. Ça, c'est chacun son style. Ça, c'est pas le problème. Mais vous savez, on ne critique pas, attention, critiquer, on en a parlé hier, on ne critique pas sur un style, là. Faites bien attention. Quand vous voyez quelqu'un exercer le ministère, il ne faut pas regarder son style. Il faut regarder son cœur. C'est ça qui est très important. Vous pouvez ne pas aimer le style de certains prédicateurs. Et vous savez, il y a des prédicateurs qui attirent beaucoup et qui ont un style particulier, et qui ont une puissante onction, il y en a d'autres, ils utilisent quelques techniques de communication et ils attirent. Mais on voit que le cœur n'est pas clair. Et ça se ressent. Si vous êtes un peu sensible au monde spirituel et que vous suivez certains ministères, il y a des ministères où vous sentez qu'il y a des cœurs qui ne sont pas clairs. Quelques années plus tard, vous voyez que les choses qui commencent à sortir. Donc, la première nation qui finance l'évangile, c'est les États-Unis. Je vais vous faire une petite parenthèse qui m'attriste beaucoup. Le frère Bénin arrive... Bénin, c'est le plus gros ministère du monde. C'est un budget, je crois, de 200 millions de dollars par an. Je répète, 200 millions de dollars par an. Ça représente quelque chose d'énorme. énorme. Mais ce qui est étonnant, il vient dans une nation, la cinquième, c'est quatrième ou cinquième, je ne sais plus. Vous êtes quatre ou cinq? Cinquième, hein. C'est ça, c'est bon. Je n'étais pas sûr si c'était quatre ou cinq. La cinquième nation la plus riche du monde, et il est obligé de financer une croisade entière. Il y a quand même un problème, non, vous trouvez pas? Non, sérieusement. Il y a quand même un problème quelque part. Amen. Apparemment, ça vous répondez pas ce matin. Non, j'essaie de vous montrer qu'il y a des contrastes dans lesquels il faut quand même se poser des questions. Et c'est pas normal. Je dis c'est pas normal. Ce n'est pas normal. Il y a un problème sérieux. C'est juste un exemple que je vous donne, mais je pourrais vous donner tout un tas d'autres exemples. Combien d'églises en France, et vous êtes parmi celles-là, attention, ce matin vous allez vraiment me jeter des tomates pourries, louent leur bâtiment 10 ans ou 15 ans plus tard, après le démarrage. On va parler un peu de finances tout à l'heure aussi. Nous devons, numéro un, pourquoi nous devons donner au Seigneur? Numéro un, c'est pour financer le royaume. Ça c'est numéro un. Quand vous entendez un message qui vous dit donnez parce que vous allez être prospère, je ne suis pas d'accord, ce n'est pas la raison numéro un. Je suis vraiment désolé de le dire, je n'enseigne jamais ça. Je dis toujours aux gens, numéro un, nous devons financer le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les païens qui vont financer le royaume de Dieu. Ce ne sont pas les païens qui vont nous acheter des jolis bâtiments en disant, pasteur Thierry André, le Seigneur m'a parlé, je suis un gros païen, j'ai une grosse boîte de nuit et un gros réseau de boîtes de nuit, je vous fais un gros chèque d'1 million d'euros et... C'est juste pour acheter une partie ou tout de votre bâtiment. Hein? Vous ne trouvez pas ça. C'est à nous de financer le royaume. C'est à nous de financer le royaume. Donc c'est très important de comprendre que numéro un, si je suis sur la terre, vous n'êtes jamais posé la question, pourquoi est-ce que quand on est de nouveau, on ne part pas directement au ciel? Vous n'êtes jamais posé cette question? Moi je me la suis posée un jour. Je me suis dit, mais après tout Seigneur, le ciel c'est la gloire, on lit dans l'Apocalypse, la gloire, la félicité, enfin, c'est vraiment extraordinaire. Et pourquoi finalement, est-ce que quand on est sauvé, ben, on ne part pas au ciel directement? Ben parce qu'on a une mission ici. Moi j'ai compris. Vous savez, quand on vieillit un peu, on commence à se poser des questions. Les jeunes de 20 ans, ils regardent toujours devant. Vous avez remarqué ça. Quand on en a 40 et quelques, on commence à se dire, qu'est-ce que j'ai fait pendant 20 ans? Qu'est-ce que j'ai réellement accompli dans ma vie? Vis-à-vis du Seigneur, bien sûr. Et on se pose ces questions, et c'est juste de se les poser. De temps en temps, il faut regarder en arrière juste pour se faire un petit bilan. D'accord? Pour se dire, eh bien, il me reste un certain temps. Moi, je confesse 90 ans. C'est ma confession de foi. Amen. Je vais rester sur cette terre 90 ans. Donc, j'en ai à peu près 45 encore à vivre ici sur cette terre. Et je veux que ces 45 soient largement meilleurs que les 45 premières. Parce qu'au début, on balbutie. Au début, on tâtonne. Mais il ne faut pas tâtonner jusqu'à son dernier souffle. Sinon, on a loupé sa vie. Mmh. Et on doit réussir notre vie. On doit réussir notre vie. Donc, que vous soyez dans le business, que vous soyez dans le commerce, que vous ayez un boulot, une des raisons pour lesquelles vous êtes ici, c'est d'aider le royaume de Dieu à grandir. Par le témoignage, oui, mais aussi par les finances. Vous avez une église locale, et je sais que vous êtes des donneurs ici, vous êtes dans une région, ça marche bien, ok? Gloire à Dieu. Mais il va falloir atteindre d'autres sommets. Nous devons financer. Nous devons financer le royaume. La Bible dit verset 6, chapitre 9, verset 6, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu, celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Rappelez-vous de nos paroles, nos actions, nos finances sont quoi? Une semence. Ça vraiment, c'est une révélation qu'il faut avoir dans le corps de Christ. Et ça met du temps. Parce qu'on l'entend, on peut l'entendre 50 fois et ne pas en avoir une révélation. Mais je vous assure, priez par rapport à ça. Dites, Seigneur, montre-moi vraiment que ce que je fais, tout ce que je fais, c'est une semence. C'est une semence. Seigneur, quand je te donne, c'est une semence. Je vous assure, il y a un moment où Dieu va vraiment vous révéler ces choses-là et vous n'allez plus être pareil. On a besoin de révélation. On a vraiment besoin de révélation dans sa parole, je vous garantis. Si vous restez simplement à dire, bon, oui, je connais, quand je dis je connais, je mets une barrière à ce que ça descende dans mon esprit. Tant que la parole n'est pas dans votre esprit, elle est dans votre tête et elle ne porte pas de fruits spirituels. Et malheureusement, on se blouse nous-mêmes, on se roule nous-mêmes, on se trompe nous-mêmes. Pourquoi? Parce que très souvent, eh bien, on pense qu'on connaît une vérité, donc ça veut dire que, oui, ben ça je connais, j'ai déjà entendu. D'accord. Mais est-ce que c'est vraiment implanté dans ton esprit, dans ta nature spirituelle? Si c'est implanté dans ta nature spirituelle, c'est là où tu vas le vivre. La Bible nous dit, celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Une église qui veut fonctionner réellement, bien selon le royaume de Dieu, ça doit être une église de donneurs. Alors, église de donneurs, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chacun prend sa responsabilité. Vous savez, quand on est dans une église locale, autant le pasteur doit être quelqu'un de responsable, et il a accepté la responsabilité d'être le capitaine du bateau, mais d'un autre côté, les brebis ont accepté de s'engager vis-à-vis de l'église locale. Moi, quand quelqu'un me dit « je veux devenir membre de votre église », je dis « ok, bon, je regarde un petit peu, combien de temps, etc. » Et je dis à la personne « bon, il y a un engagement spirituel, ok, il y a un engagement moral, mais il y a aussi un engagement financier. » Moi, je suis clair tout de suite, je préfère le dire à l'avance. Je dis « si vous êtes dans l'église, il faut vous engager financièrement. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de financer le royaume de Dieu. Mais regardez, on est complètement à la traîne. Mais le monde est 1 million de kilomètres avant nous. Regardez dans les médias, par exemple, francophones. Mais c'est la cata totale. Mais c'est ravageant de voir ça. Vous écoutez des radios, il y a des détritus là-dedans. Vous ouvrez la télévision, c'est la même chose. Les évangéliques sont hués. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas d'impact. Et je vais vous dire une chose, l'argent a de la puissance. Ça. Oui, l'argent a beaucoup de puissance. Le problème, c'est que les chrétiens ont été enseignés, on a dit, oui, l'argent, oui, mais l'argent, vous savez bien que c'est un problème, l'argent. L'argent a de la puissance. L'argent a de la puissance. Dis à ton voisin, apparemment, t'es pas convaincu. L'argent a de la puissance, si t'es pas convaincu. Mais dis-lui aussi, ça dépend dans quelle main se trouve cet argent. Dans quelle main se trouve cet argent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si cet argent est dans les mains des païens, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font leurs histoires. Ils font leurs péchés, ils construisent leur propre royaume. Par contre, si c'est dans les mains des chrétiens et des gens qui sont sages, au travers de l'église locale, là, on peut faire des choses pour le Seigneur. TBN, la chaîne de télévision américaine, chrétienne, ils ont 57 satellites, je répète, 57 satellites. Ils ont des budgets de centaines de millions de dollars tous les mois. Moi, je suis au Burundi, dans un coin paumé d'Afrique, avec une parabole. Un bled, c'est ça? Non, parce que je dis qu'Oni, c'est un bled. Oh, pardonnez-moi. Je me suis... Bon. Et en fait... 15 000 habitants, c'est pas un bled. C'est un bled. Et en fait, avec une petite parabole, on dépense quoi, 150 euros, petite parabole et un décodeur, je reçois 4 chaînes de télévision, 24 heures sur 24. Chrétienne, américaine, anglophone. Moi, je suis béni, j'aime ça. Mais imaginez-vous, n'importe où dans le pays où il n'y aurait pas d'eau, pas d'électricité, vous mettez quelques panneaux solaires, quelques trucs, vous avez une parabole et vous recevez une chaîne chrétienne dans le monde entier. C'est, attendez, non, je crois que vous ne m'avez pas entendu. Et dans le monde francophone, on ne fait rien quasiment. On balbutie avec une caméra et un Michael qui est assis pour essayer de prendre un film. Voilà ce qu'on fait. Non, mais c'est, moi, personnellement, c'est dramatique. C'est absolu, mais c'est dramatique. Je crois qu'il faut quand même se poser des questions, non? Et la plupart des églises locales francophones louent leur bâtiment. Je dis bien la plupart des églises francophones louent leur bâtiment. Il y a quand même un problème quelque part, qui est très sérieux. Vraiment, c'est sérieux. Vous savez, au bout de 10 ans, normalement, une église devrait avoir pris au moins une option d'achat, si ce n'est être dans ses propres bâtiments. 10 ans. Oui, je répète, 10 ans. Parce que 10 ans, c'est quand même pas mal de temps. Ça fait un peu. Hein. En 10 ans, on a le temps de faire quelque chose. Donc, ça nous met au défi quelque part. Et ça serait normal quand on commence. Bien sûr, vous êtes une église où vous avez un serviteur de Dieu qui est passé par un déformatage complet. Ça a pris du temps. Il s'est vraiment réformé. Il est passé de l'évangélique pur et dur au charismato-planant. Oh pardon, au charismatique. Et en fait, bon, ça prend du temps et ça, c'est normal. Mais quand vous démarrez avec toutes les cartes en main, au bout de 10 ans, normalement, une église devrait avoir ses propres bâtiments. Oui, bah, je vois qu'il y en a certains qui font. Faites. Mais c'est une vérité. Et je ne vois pas pourquoi. Si Dieu a ordonné quelque chose, si Dieu a oint un ministère, si quelqu'un a durement travaillé, au bout de 10 ans, il devrait être capable. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. N'acceptez jamais des pressions, des histoires d'enseignement où Dieu est une machine à sous. En son cœur, sans tristesse ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. Verset 8. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces. La grâce, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on ne mérite pas. Combler, ça veut dire quoi? Un demi-verre, un quart de verre? Non. Combler, ça veut dire que ça déborde. Et il y a un moment où ça doit déborder dans nos vies. Spirituellement, financièrement, dans notre épanouissement personnel, etc., etc. Ça doit déborder quelque part. Si ça ne déborde pas, ça veut dire que la bénédiction n'est pas sur nous pleinement. C'est clair. La manifestation de la bénédiction. Parce que la Bible nous dit que nous avons été bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Donc tu es planté dans le royaume de Dieu, et après il va falloir t'épanouir. Et beaucoup de chrétiens ne s'épanouissent pas. Parce qu'ils n'ont pas la bonne parole, ou alors ils sont rebelles à la bonne parole, ils n'ont pas fait d'expérience dans le Saint-Esprit suffisante, ils ne sont pas visités régulièrement, et ils n'ont pas travaillé leur caractère. Rappelez-vous de ces trois piliers. Et Dieu a le pouvoir, la puissance de vous combler de toutes sortes de grâces afin que possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins. Un chrétien qui n'est pas pourvu, c'est un chrétien anormal. Je répète, un chrétien qui n'est pas pourvu est un chrétien anormal. Je vais plus loin. Une église qui n'est pas pourvue est une église anormale. Rappelez-vous, l'église est surnaturelle. 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 De quoi satisfaire à tous vos besoins que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je suis béni, c'est pas pour mon gros ventre. C'est pour être une bénédiction. Ça, c'est très important. C'est très important. Beaucoup de gens voient mal le message de la prospérité où ils cherchent à s'enrichir et ils se plantent. C'est pas l'objectif. Tu seras obligatoirement béni. Si tu déverses, obligatoirement, t'en auras aussi. Il y a d'autres gens qui vont déverser sur toi. Nous sommes des aimants. Nous sommes des aimants. Nous attirons ce que nous sommes. Si tu es un donneur, tu ressembles à ton Père qui est dans les cieux, qui est un donneur. Et obligatoirement, tu vas attirer la bénédiction. C'est obligatoire. Tu es un bon aimant dans ce cas-là. Il y a des chrétiens qui sont de mauvais aimants, dans tous les domaines. Vous les voyez, ils vivent vraiment... Alors, leur vie spirituelle, c'est lamentable. Ils ont une prière sur 50 000 qui est exaucée. Ils sont toujours tristes, toujours malheureux, ils sont toujours déprimés, ils ont toujours plein de problèmes, jamais épanouis. Financièrement, c'est le même problème. Je suis désolé, dans tous les domaines de notre vie, Dieu a un plan puissant, mais il faut le mettre en action. Encore les lois spirituelles du royaume. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Dans notre église, il y a quelque temps, quand on a démarré l'église locale, vous savez... au Burundi, c'était vraiment, financièrement, c'était vraiment difficile. Je vous ai donné quelques bribes hier. Mais franchement, on avait d'immenses difficultés. Dieu nous avait vraiment bénis par une salle de cinéma qui était inoccupée, qu'on payait vraiment pas cher, qui était vraiment bien. Il y avait tout ce qu'il fallait, il y avait les sièges, c'était parfait pour démarrer une église. Mais franchement, les dîmes et les offrandes, c'était du style 30 euros par dimanche. Avec 30 euros par dimanche, quand vous avez une salle à louer, plus quelques bureaux poussiéreux à louer, et que vous n'avez pas de véhicule, eh bien, il faut se débrouiller quand même. Parce qu'il faut que ça tourne, la maison tourne. Et Dieu, au début, vraiment a fait des choses, miraculeuses, parce que vraiment, il nous a toujours envoyé les bonnes personnes au bon moment, et nous avons toujours payé ce que nous devions payer. Mais au début, c'était extrêmement difficile. Mais là, aujourd'hui, nous sommes dans un niveau où c'est nous qui commençons à bénir les autres. L'année dernière, on a donné 1 000 $ au ministère de Bénin. Parce qu'il faut aussi que vous appreniez à donner à des ministères internationaux. Semer dans des ministères internationaux. Rappelez-vous, la reine de Saba est venue voir l'homme le plus riche du monde qui s'appelait Salomon. Et vous pensez que la reine de Saba, qui a amené d'immenses richesses, allait rajouter quelque chose à Salomon? Non, c'est parce qu'elle voulait... puiser quelque chose de la part de Salomon. Et ça, c'est un principe scripturaire. Bénissez toujours des ministères qui sont beaucoup plus hauts que vous. Cette année, j'ai dit à mon église, nous allons donner l'équivalent de 5 000 $ américains à partir de notre église à d'autres ministères. Il y a quelque temps, et on fait actuellement des collectes pour notre bâtiment, on va acheter un grand bâtiment à 300 000 €, et on doit le payer en 3 fois, il n'est pas fini, c'est juste l'infrastructure qu'on achète. Et en pleine collecte cette année, je priais pour quelques pasteurs dans la ville, et le Seigneur m'a dit, tu vas donner 2 millions de frambous, c'est-à-dire à peu près 2 000 $, à telle église. Et j'attendais une confirmation, je ne suis pas du genre à agir sur l'impulsion comme ça, parce que parfois on peut se tromper. Quand on entend quelque chose, des fois on peut se tromper. Et le Seigneur donc m'a vraiment donné de le faire, et j'ai dit le dimanche, j'ai dit voilà, ce que nous allons faire, c'est toute la dîme et les offrandes, donc nous allons tout donner pour cette église, qui est d'ailleurs à même pas 1 km de chez nous, qui est une beaucoup plus grande église, en tout cas il y a beaucoup plus de monde qui vient. Et en fait, je sais que le pasteur des fois a quelques petits problèmes de gestion, mais ça c'est son business perso, c'est pas à moi de juger. Et en fait, on a fait ça. Et quand j'ai annoncé ça, j'étais étonné, les gens étaient... Ils étaient super contents et tout. J'ai dit, waouh, bon, gloire à Dieu, amen. On va bénir notre église juste à côté et on va être contents. Et bon, on a fait ça le lundi matin. Et j'ai dit, tout ce qu'il y aura tout ce qui manquera, il manquait un peu, on le rajoutera du compte de l'église. Et j'ai dit, ne dites pas, c'est oui, mais pasteur, pourquoi vous dites ça? On est en train de donner pour le bâtiment, etc., etc. J'ai dit, oui. Et j'ai lu ces versets tout simplement. Je leur ai dit, on va donner. On a donné. Le lundi soir, j'étais chez l'autre pasteur. Je lui ai dit, voilà, Seigneur nous a mis à cœur de faire ça. Tchouc, je lui ai donné un chèque. Ok, il m'a remercié, tout ça. 10 jours plus tard, il y a quelqu'un qui me téléphone. Une dame qui vient jamais quasiment dans notre église, mais que j'avais amenée au Seigneur il y a bien des années. Et elle est venue, et dans une enveloppe, elle a amené 10 000 dollars US. Gloire à Dieu, amen. Et on n'a vécu que des choses comme ça, parce qu'il faut appliquer les principes du royaume. Ceux qui veulent retenir, eh bien, ils ne vivront pas les principes du royaume. Et c'est pour ça que dans les finances, on a besoin d'être libérés. Moi, quand je me suis converti chez les Pentecôtistes il y a 25 ans, je pensais qu'un chrétien ne pouvait pas rouler en voiture, c'était trop de luxe pour lui. C'était la mentalité que j'avais au départ. Et c'est une mentalité, en fait c'est une mentalité satanique. Le monde, quand il projette quelque chose sur Dieu, il projette toujours les bonnes œuvres. Hein, quelqu'un qui fait ça, qui a aidé les clochards à sortir de la rue, etc. etc. Vous ne pourrez pas avoir un impact si vous n'êtes pas plein aux as, excusez-moi l'expression, c'est-à-dire que l'Église n'est pas super prospère. Parce que vous ne pourrez pas avoir un impact. Parce que vous êtes d'abord toujours obligé d'aller chez les autres. Est-ce que Dieu va chez les autres? Non. Normalement, non. Est-ce que des princes sont obligés de demander, écoutez, on voudrait un petit local? Non, nous sommes des fils et des filles du roi des rois. Donc il va falloir changer de mentalité complètement. Et au travers d'un changement de mentalité, quand nous semons dans le royaume de Dieu, nous récoltons obligatoirement. Et plus nous récoltons, plus nous semons. Donc c'est un principe qui est simple. Vous voyez, Dieu nous a donné des principes qui sont ultra simples. Par contre, il faut se débloquer. Et ça demande des fois de la foi. Parce que quand on a des difficultés financières, on se dit comment semer. Moi, vous savez, des fois j'ai des gens qui sont dans une pauvreté extrême. Et donc souvent on leur sort la tête de l'eau en les aidant à l'église, hein, simplement pour qu'ils puissent respirer, parce qu'il y en a vraiment, c'est dans des situations catastrophiques. Mais quand on les aide, pendant un temps, on les enseigne, on les construit dans la parole. Et il y en a qui saisissent le message. Et j'ai vu des gens sortir de la pauvreté extrême. Alors bien sûr, le système biblique que nous enseignons, c'est un système anti-Nations Unies, anti-assistanat. Parce qu'un chrétien ne peut pas être assisté normalement. Et c'est vrai qu'ici en France, vous avez un problème d'assistance qui est très sérieux et qui est très mauvais. Ça c'est clair, qui est anti-scripturaire. C'est normal parce qu'on a sorti Dieu de la société ici. Et vous étonnez pas qu'il y ait des systèmes où il y ait, en fait qui soient contraires à ce que Dieu veut. L'homme est appelé à être productif. Et l'homme de Dieu, la femme de Dieu que vous êtes, parce que vous êtes homme et femme de Dieu, vous êtes appelé à produire. À produire. Dieu a promis une chose, c'est de bénir l'œuvre de nos mains. Et nous devrions être des experts dans le domaine. Non pas pour nous enrichir. Aimer l'argent, c'est terrible. C'est un péché qui est vraiment grave. Simplement, pour toujours avoir cette perspective. Et sachez une chose, le jour où l'Église sera enlevée, nous passerons tous devant le tribunal de Christ. Et ce jour-là, le Seigneur fera les comptes avec nous. Il fera les comptes avec nous. C'est clair, c'est marqué dans la parole de Dieu. Il fera les comptes avec nous. Si vous vivez en tant qu'église locale avec la perspective de l'éternité, vous serez gagnant. Si vous vivez au jour le jour, vous serez perdant. Je répète. Si vous vivez avec la perspective de l'éternité, vous serez gagnant. Si vous vivez avec la perspective du jour le jour, vous serez perdant. Moi, constamment, je suis obligé. On est obligé parce que, vous savez, la terre nous attire régulièrement. La mentalité nous attire. Ça, c'est clair. Donc, il faut constamment se dégager de ça pour penser qu'un jour, nous allons le rencontrer. Plus tu y penseras, plus tu vivras les lois du royaume. Moins tu y penseras, moins tu vivras les lois du royaume. Et ça, c'est clair. Et le temps, c'est quelque chose qu'on peut utiliser ou c'est quelque chose qui peut aller contre nous. Si tu apprends à faire ce que la parole de Dieu te dit de faire, tu verras la puissance de Dieu. Mais beaucoup de gens prient et ne veulent pas agir dans la foi. Et c'est vrai que dans les moments difficiles, donner, c'est pas facile. C'est un acte de foi. Mais si tu le fais, et que tu apprends à marcher dans la foi, tu verras Dieu te faire prospérer à tous égards. Et ta prospérité, rappelle-toi, doit toujours être non pas une recherche de la bénédiction. Ne recherchez jamais la bénédiction, mais recherchez toujours celui qui est la source de la bénédiction. Parce que quand on est rempli de Dieu, quand vraiment on marche dans le royaume, obligatoirement ça déborde. C'est un principe qui est simple là aussi, mais qui est puissant, mais qu'il faut appliquer. Les gens ont trop les yeux rivés sur la bénédiction. N'ayez pas les yeux sur la bénédiction, ayez les yeux sur Christ. Ayez les yeux sur l'éternité. Et quand on marche comme ça, c'est très simple. Et c'est là où on voit Dieu, vraiment. Et il y a plein de choses qui se passent. Les finances sont une clé pour beaucoup de choses. Vraiment, sont une clé pour beaucoup de choses. Moi, j'ai vu vraiment beaucoup de choses se produire parce que les gens ont commencé à donner et à pratiquer la parole de Dieu dans le domaine des finances. Quand on ne veut pas le faire, quand on dit non, cœur à gauche, portefeuille à droite, hein, vous savez ça en France, vous connaissez bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Tu ne pourras jamais être épanoui en Christ si tu n'apprends pas à être un donneur. C'est un principe simple. Donc nous allons donner au Seigneur. Amen.
Et je crois que à ce sujet, les Écritures sont claires aussi et très simples. J'avais à cœur simplement de lire ce verset de Galates chapitre 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. On peut le tourner en grec, en hébreu, en chinois, en tout ce que vous voulez. Ça veut dire la même chose. Et je crois que nous avons parmi nous un orateur, un serviteur de Dieu qui nous bénit par l'enseignement que nous recevons. Et notre responsabilité, c'est aujourd'hui de pouvoir avoir la joie de semer dans son ministère. C'est une semence. Un agriculteur, un paysan, je ne sais pas si vous avez déjà vu un paysan dans l'ancien temps semer. Il ne fait pas que jeter une poignée et tout le champ est couvert. Il doit parcourir son champ régulièrement et dans tous les sens, jeter la semence pour qu'elle remplisse le champ. Et en tant que chrétien, en tant que fils et filles du royaume, en tant que prince, notre responsabilité, c'est tous ensemble de semer largement. Largement. Parce que Dieu, la parole de Dieu nous dit que Dieu ouvre sa main et il répand abondamment sur les justes et sur les injustes. Donc Dieu n'est pas chiche, Dieu est riche. C'est deux mots presque pareils, mais chiche et riche, hein, voilà. Dieu est riche. Et nous sommes au bénéfice de cette richesse, de cette abondance, de cette bénédiction. Alors ensemble, nous voulons bénir ce serviteur de Dieu qui est parmi nous ce matin, et cet après-midi, et pour ce week-end. On aurait des centaines d'histoires à vous raconter dans le domaine des finances, comment Dieu est bon, comment Dieu pourvoit, comment Dieu bénit. Mais aussi, il demande de notre part des actes de foi parfois pour semer. Mais on voit toujours que Dieu même a déjà préparé la provision souvent et il attend qu'on fasse ce pas de foi pour la libérer. Amen. Vous allez bien ? Bon. Merci, il y a au moins les trois premiers rangs qui vont bien. Les autres, on verra. Peut-être que l'onction va gagner les rangs au fur et à mesure. Mais voilà, je te laisse la place pour la suite de l'enseignement.
Merci, alléluia. On va continuer donc notre enseignement sur l'église locale. Alors vous êtes baigné, ça va, ça secoue un peu, hein. On va encore secouer, je suis un secoueur apparemment, hein. C'est mon ministère, je ne sais pas. Hein, Michael, tu es d'accord avec ça? Amen, hein. Tu dis amen, ça ne m'étonne pas que tu dises amen. Ok, bon, donc on va continuer. Je voulais faire, juste avant de commencer les cinq phases par lesquelles une église locale devrait passer, faire quand même une petite, un tout petit complément de ce que j'ai déjà enseigné hier. Donc je vous rappelle qu'une église, d'abord, c'est pas une boutique, c'est pas un supermarché, c'est pas initié par l'homme, mais c'est initié par Dieu. Et je vous ai montré que pour qu'une église locale puisse démarrer selon le Seigneur, normalement, Dieu, dans son royaume, parce que nous sommes dans le royaume de Dieu, nous ne sommes pas dans le royaume du monde, il y a des principes du royaume de Dieu, à ce moment-là, Dieu nous montre qu'il va oindre des ministères. Il y a cinq ministères, il n'y a pas six ministères. Hier, on m'a posé la question, ministère de délivrance? Non, il n'y a pas de ministère de délivrance. Nous exerçons la délivrance, mais il n'y a pas de ministère de délivrance, ça n'existe pas. D'ailleurs, il n'y a pas non plus de ministère d'intercession. Vous savez, il y a des gens, ils ont des expressions bizarres. Ils parlent de prière prophétique. Non, il n'y a pas de prière prophétique. Il y a une prière inspirée par le Saint-Esprit. Maintenant, tu peux lui mettre des termes, mais vous savez, quand on commence à faire des trucs avec des... On commence à mettre des étiquettes sur certains trucs, on commence à... Ben, toujours le même principe, hein, la boîte de conserve, où il y a juste l'étiquette et il n'y a plus rien dedans. Ça, c'est le problème. Il y a une prière inspirée, oui, il y a une prière qui peut être prophétique, oui, mais on ne peut pas en faire un séminaire. Parce que les gens, après, utilisent des méthodes, et ils se plantent, et ils se détournent de choses qui sont scripturaires. Il faut faire attention, frères et sœurs. Vous savez, il y a beaucoup de trucs, on parle des tentes de David, là, je ne sais plus, il y avait une histoire de tente de David, là, ou je ne sais plus trop quoi, là. Le tabernacle David, oui, par merci. Enfin, vous êtes au courant. Enfin, personnellement, moi, des fois, j'entends des trucs. Il y a un jour, un frère qui a appelé son église le temple des tentes d'assignation, je ne sais pas trop quoi, enfin, un truc du genre. Il y a des gens qui ont des expressions très bizarres. Non, il faut y aller doucement, hein. Ok, il y a de puissantes vérités derrière tout ça, mais ce ne sont pas des choses qu'on fait automatiquement, vous savez. Le Saint-Esprit nous dirige dans certains domaines, et puis c'est tout. Amen, alléluia. Alors, oui, il y avait deux choses que je voulais vous dire à propos des serviteurs de Dieu. Quand un serviteur de Dieu a une vision, c'est là où Dieu veut l'emmener. Ok. D'abord, il faut aussi qu'on sache que Dieu ne nous dit jamais de démarrer une église et te dira « ton église aura 125 membres ». Point. Dieu dit « démarre une église, je t'appelle à faire une grande œuvre ». Et le résultat, ça va être les ingrédients que tu vas mettre, les clés que tu vas utiliser pour arriver à un certain objectif. Et celui qui limite l'église locale, excusez-moi frère pasteur, c'est le pasteur. C'est le leader. Nous sommes les limitateurs de notre église. Je répète. Nous sommes les limitateurs de notre propre église. En tant que serviteurs de Dieu, c'est nous qui mettons les frontières à notre église. Et en tant que chrétiens, chacun d'entre nous, nous mettons les frontières à notre vie spirituelle. En fait, c'est nous qui limitons notre potentiel. Amen. Amen. Mmh. Réfléchissez bien à ça. Beaucoup de chrétiens prient. Oui, Seigneur, j'aimerais que... Non, le Seigneur dit, c'est à toi d'élargir. C'est à toi d'élargir ta vision. C'est à toi d'élargir tes frontières. C'est à toi d'acquérir de nouvelles dimensions. Tu peux prier pour ça, mais c'est toi qui dois rentrer dedans. C'est toi qui dois rentrer dedans. Un serviteur de Dieu va faire une marche. Dans une église, il y a une marche. Ok? Et quand un serviteur de Dieu fait des erreurs, eh bien, il est bloqué dans sa marche. Et Dieu, parfois, doit le châtier. J'aborde des sujets apparemment rares. Châtiment de Dieu. Qu'est-ce que c'est que le châtiment de Dieu? Le Seigneur m'a envoyé une maladie, le Seigneur m'a enlevé mon boulot. Non, tout ça, c'est pas le châtiment de Dieu. Du tout, ça n'a rien à voir. Quand un serviteur est châtié, c'est que Dieu lui enlève certains privilèges, certaines choses que Dieu voulait faire avec ce serviteur. Parce que ce serviteur, soit a péché, soit s'est écarté de certaines choses de Dieu. Par exemple, Moïse. Je vous donne un exemple. On pourra en trouver d'autres dans la parole de Dieu. Mais je vous donne juste un exemple. Parce que je ne peux pas passer trop de temps sur ce sujet, mais c'est un sujet qui est très important à comprendre. Quand, par exemple, Moïse, à un moment, Dieu lui a dit, le peuple d'Israël, les râleurs professionnels étaient là, les rebelles professionnels étaient là, et ils disaient, mais nous on a soif, il n'y a pas d'eau ici dans ce désert, etc., etc. Pourquoi est-ce qu'on nous a fait sortir du pays d'Égypte? Enfin, il râlait tout le temps comme ça. Bon. Et Dieu lui dit à un moment, bon ok, tu vas parler à ce rocher. Et Moïse va s'énerver, et il va frapper le rocher. Et d'ailleurs ça, le rocher frappé du Père, c'était prophétique, d'accord? Ok. Christ a été frappé justement pour que nous puissions être bénis, pour que nous puissions être guéris, nous puissions être pardonnés. Et Moïse va faire ça. Et parce que Moïse va faire ça, Dieu lui dira, tu n'entreras pas dans le pays promis. Et si vous lisez le début du livre de l'Exode, la vision que Dieu avait donnée à Moïse, c'était, tu feras sortir le peuple d'Israël d'Égypte, et toi, Moïse, l'amèneras dans le pays promis. Et vous avez remarqué que Moïse n'a jamais amené le peuple d'Israël dans le pays promis. Ce qui veut dire que la vision que Dieu et l'appel que Dieu avait donné à Moïse, Moïse ne l'a pas réalisé complètement. Pourquoi ? Par sa faute. Une petite gaffe. Plus l'onction est forte sur un serviteur de Dieu, plus il a d'impact dans le monde spirituel, plus la moindre gaffe lui coûte cher. Je répète. Plus un serviteur a une grande onction, plus il a d'impact dans le monde spirituel, plus la moindre petite gaffe lui coûte cher. Je répète. La sanction divine sera plus importante pour un serviteur de Dieu qui a une grande onction que pour un serviteur de Dieu qui a une petite onction. Vous le verrez vous-même. Étudiez les ministères, vous verrez ça. Et ça fait mal. Catherine Kuhlmann, quand elle a démarré son ministère, elle n'avait pas un ministère de guérison. Elle avait un puissant ministère d'évangéliste, mais il n'y avait pas du tout ce qui se passait. Et elle a fait une grave erreur. Elle s'est mariée avec un évangéliste qui était déjà marié et séparé. Elle ne le savait pas, mais on l'avait complètement déconseillé. Et elle a fait cette immense erreur. Pendant 8 ans, elle était sur la touche. 8 ans. 8 ans sur la touche. Et il a fallu qu'elle se repente et revienne au Seigneur. Un désert immense, un appel gigantesque qu'elle avait. Et c'est seulement après où Dieu l'a oint pour la deuxième phase de son ministère. Mais elle a perdu une église de 2000 membres. Ça fait mal de perdre une église de 2000 membres. Elle est complètement perdue, l'église. Terminée. Ça fait mal. Il faut étudier les ministères, frères et sœurs. Il faut étudier les ministères. Ça nous met un petit peu de plomb dans la tête. On en a besoin, tous besoin, et régulièrement besoin, je vous garantis. Il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc, sachez une chose, quand Dieu châtie, c'est pour ça qu'il ne faut jamais que ce soit une brebis ou des brebis qui viennent essayer de corriger un ministère. Mais le ministère, ça lui coûtera cher quand il va faire des erreurs. Chaque erreur que nous faisons, c'est du temps que nous perdons. Et nous avons un temps qui est limité sur cette terre. Des fois, on perd une année, 2 années, X années. Moi, j'ai perdu plusieurs années. Je vous garantis, maintenant, je suis prudent quand je fais un pas ou un autre. Parce que je sais que quand Dieu me sanctionne sur des choses, ça fait mal. Ça fait mal. Parce qu'on a de grands rêves, on a de grandes visions, et on commence à entrer dans certaines choses, et d'un seul coup, on fait une erreur. Oh là 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 là. Et là, Dieu nous sanctionne. Et ça, ça fait mal. Ça, ça fait mal. Mais Dieu nous corrige. Et un bon serviteur de Dieu doit dire, Seigneur, merci parce que tu me corriges, et j'en ai besoin. Parce que ça forme notre caractère. Et nous en avons tous besoin. Et dans l'histoire d'une église locale, un serviteur de Dieu se fera obligatoirement corriger. Par le Seigneur. Par le Seigneur. Ça, c'était une première parenthèse. Une deuxième parenthèse que je voulais faire, c'est dans Acte 20. Je vous rappelle que je vous donne beaucoup d'informations, d'enseignements, de droite et de gauche. Mais ça serait très intéressant que vous repreniez toutes ces choses et que vous passiez du temps à les méditer. Parce que je vous donne des puissantes vérités ici. C'est parce que je ne peux pas développer chaque vérité. Ça passerait trop de temps. Dans Acte 20... C'est Paul qui va faire la première pastorale. La première pastorale. La première pastorale, c'est-à-dire des gens qui vont se réunir, non pas pour aller larmoyer ensemble, mais c'est pour être édifiés ensemble. Pas pour aller se raconter des histoires négatives de tel pasteur qui a fait ça, ou tel truc, tel machin, etc. Parce que ça, personnellement, moi, ça ne m'intéresserait jamais. mais c'était très constructif. Paul avait eu un tel impact pendant plus de 3 ans et demi dans la région d'Asie mineure, c'est-à-dire l'ouest de la Turquie actuelle. Et Paul, vraiment, l'apôtre Paul a réellement exercé son ministère apostolique. La région entière a été complètement transformée, à tel point qu'il y avait même des business d'idolatrie qui ont dû fermer, et que ça a été d'ailleurs une des raisons pour lesquelles il a dû fuir, parce qu'il y avait trop de persécutions. Et en fait, Paul va convoquer des serviteurs de Dieu et va leur faire une première pastorale. Et va leur montrer les dangers qu'il va y avoir dans l'église locale. Et on va faire juste un petit point là-dessus, je ne veux pas trop insister là-dessus. Mais si vous voulez des richesses pour le ministère, vous allez les trouver ici. Verset 17, il dit « Cependant, de Millet, Paul envoya chercher à Éphèse les anciens de l'église. Lorsqu'ils furent arrivés auprès de lui, il leur dit « Vous savez comment je me suis tout le temps conduit avec vous depuis le premier jour où j'ai mis le pied en Asie. » Ici, il y a tout un passage d'intégrité sur le ministère. Très important. Éthique et intégrité. Éthique, c'est la morale qu'un ministère doit avoir. Et la façon dont il se comporte avec les autres. « J'ai servi le Seigneur en toute humilité, avec larmes et au milieu des épreuves que me suscitaient les complots des Juifs. Sans rien dissimuler, je vous annonçais et je vous enseignais publiquement, dans les maisons, tout ce qui était utile, en proclamant aux Juifs, aux Grecs, la repentance envers Dieu et à la foi dans notre Seigneur. Et maintenant, je voici que, lié par l'Esprit, je vais à Jérusalem sans savoir ce qui m'arrivera. Seulement, de ville en ville, le Saint-Esprit atteste que des liens et des tribulations m'attendent. Mais je ne fais aucun cas de ma vie comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus. Rendre témoignage à la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Maintenant, voici, je sais que vous ne verrez plus mon visage, vous tous au milieu de qui j'ai passé en prêchant le royaume de Dieu. C'est pourquoi je l'atteste aujourd'hui, je suis pur du sang de vous tous. Car sans rien dissimuler, je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Alors évêque, ça veut dire surveillant. Quelqu'un qui veille sur. En fait, c'est un pasteur, un évêque. Ça a été transformé, mais le mot évêque au départ, c'est le ministère pastoral. Les anciens étant des gens qui normalement étaient nommés par, entre autres, des apôtres qui avaient fondé des églises, en attendant qu'un pasteur arrive, d'accord ? Évêque, c'est surveillant, pour faire paître l'église de Dieu. Vous voyez, ce verbe paître veut bien dire ce que ça veut dire. Le pasteur est un berger. Il veille sur, c'est un gouverneur. Vous voyez, il y a plein de titres du pasteur. On pourrait faire toute une étude sur le ministère pastoral. C'est vraiment très intéressant. Pour faire paître l'église de Dieu, qu'il s'est acquise par son propre sang. Alors regardez bien ce qu'il va dire au verset 29 et au verset 30. Ce sont les attaques sataniques contre l'église de Dieu, très courantes. « Je sais que parmi vous, après mon départ, s'introduiront des loups redoutables qui n'épargneront pas le troupeau et que du milieu de vous se lèveront des hommes qui prononceront des paroles perverses pour entraîner les disciples avec eux. » Alors ici, il y a plusieurs choses que la Bible nous montre. En fait, bon, j'ai pas trop le temps de détailler ces deux versets, mais Paul va mettre en garde contre les faux docteurs et contre les faux prophètes. Les faux docteurs, ce sont des gens qui sont à l'intérieur de l'Église, qui commencent à amener des enseignements qui ne sont pas scripturaires et qui détournent des gens avec des fausses doctrines. Et il faut faire attention. Je suis un anti-ministère de combat spirituel et soi-disant délivrance. Parce que c'est vraiment un truc diabolique que Dieu a introduit dans l'Église et qui amène les gens à faire des... Pardon ? Que le diable, oui, excusez-moi, que le diable a introduit dans l'Église. Excusez-moi, mon cerveau parfois tilt. Merci. Que le diable a introduit dans l'Église et en fait sous le couvert de Dieu. Sous le couvert de Dieu. Alors ils essayent au maximum... En fait, de vous faire croire des choses. Et je vous dis, il y a beaucoup de chrétiens qui vivent dans un monde spirituel qui est irréel. Moi, je rencontre des gens qui vivent dans une bulle. Des gens bizarres. Des gens qui vous disent qu'ils sont là, qu'ils ont prié ceci, qu'ils ont fait cela, qu'ils sont dans une espèce de victoire de combat, de machin, de truc. Ils combattent spirituellement pour avoir un appartement. Il y a des gens qui vous disent ça. Hein. Et des trucs bizarres, 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 bizarres. Ce sont des trucs qui sont faux, qui sont complètement faux. Dieu nous demande de nous focaliser sur qui ? Sur Christ. Pas sur le diable. Lorsque tu magnifies Christ, lorsque tu vois la grandeur de Christ, mais le diable te paraît tout petit, et c'est normal, il est tout petit. Le problème, c'est que les gens, il y a des infiltrations de fausses doctrines. Les liens ancestraux aussi. Qu'est-ce qu'on en a dans les églises africaines ? Ya. Ça, c'est vraiment, vraiment antiscripturaire. Antiscripturaire. Bon, Par exemple, sur les finances. Vous savez, souvent, le diable essaie d'utiliser une vraie doctrine de la parole de Dieu et s'arrange pour qu'il y ait des gens qui amènent cette doctrine complètement à l'extrême. Dans la prospérité, il y a une puissante vérité. Puissante vérité. Mais on entend des gens vous raconter des trucs. Le Seigneur m'a dit, on en parlait avec le pasteur hier, le Seigneur m'a dit, il faut que chacun donne 500 euros aujourd'hui. Ne jouez jamais avec ce genre de truc. N'acceptez jamais la manipulation. Ça, c'est de la manipulation. C'est pas la parole de Dieu. C'est pas la parole de Dieu. Il y a plein de manipulateurs qui utilisent des doctrines. Le Seigneur m'a dit que tu devais me donner. Un jour, il y a comme ça quelqu'un qui est venu, qui était un serviteur de Dieu, et qui avait bien marché avec le Seigneur pendant un temps. Mais cet homme s'était ouvert à certains esprits démoniaques, ce qu'on appelle les esprits familiers, c'est-à-dire des choses. Vous savez, il y a un monde autour de nous, un monde spirituel qui connaît ce qu'on fait. Et alors, il est venu voir, il était chez un businessman, et il vient dans son bureau, et il lui dit, le Seigneur m'a dit que tu devais me donner donc, le diamant qu'il y a dans ton bureau, dans le tiroir de ton bureau. Et il y avait un diamant, effectivement, dans le tiroir du bureau de ce businessman. Et il a dit, ok, apparemment c'est une parole du Seigneur. Et il s'est fait escroquer. Vous voyez, il faut faire attention à toutes ces choses. On est dans un royaume et quand on commence à avoir de l'impact, sachez bien une chose, quand on commence à avoir de l'impact, l'ennemi enverra ses émissaires. Je répète, quand on commence à avoir de l'impact, l'ennemi essaie d'envoyer ses émissaires. Alors ça, les fausses doctrines, ça court et ça recourt. On a eu la cure d'âme à outrance aussi. Ça, c'était dans les années 80. Aujourd'hui, c'est pratiquement fini, heureusement, gloire à Dieu. Vous savez, les fausses doctrines, il faut que vous sachiez qu'elles tournent. Ça vient et ça revient par vagues. Ça, il faut que vous le sachiez. Dans le corps de Christ, c'est comme ça. Alors, on faisait passer les gens à la moulinette pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient fait dans leur passé. Le passé, c'est le passé. Tu ne peux pas le refaire. Regarde devant. Sinon, tu vas te retourner et devenir statue de sel comme la femme de Lot. Ok ? Faites bien attention à ça. Regardez devant. Regardez à ce que vous êtes en Christ. Marchez dans la foi. Apprenez à vous développer dans la foi. Ayez les yeux sur celui qui est la source de toutes choses. Arrêtez de voir des trucs à droite et à gauche, parce que en anglais on appelle ça les pet doctrines, c'est-à-dire des sortes de doctrines, vous savez, qui reviennent, sur lesquelles on insiste tout le temps, des choses qui sont fausses et qu'on amplifie à outrance et qui amènent les gens dans l'erreur. Il faut faire attention. Un pasteur doit vraiment être clair au niveau doctrinal et il doit donner régulièrement de la bonne nourriture. S'il invite un serviteur de Dieu, il doit être prudent. Eh oui, parce que quand vous invitez un serviteur de Dieu dans votre église, ça veut dire que vous appuyez ce serviteur de Dieu, vous recommandez ce serviteur. Et quand il commence à mettre du poison dans votre église, bah vous êtes mal. Parce qu'après, vous êtes obligé de vous présenter devant vos brebis et de dire, bah écoutez frère, oui c'est vrai, le frère Intel nous a dit ça, mais il a un petit peu abusé. Et en fait, on se retrouve un petit peu embêté, on se retrouve dans une position assez inconfortable. Donc c'est pour ça qu'il faut être prudent. La deuxième chose, ce sont les fausses prophéties et les faux prophètes. Des gens qui viennent et qui commencent. Vous savez, majoritairement, on ne vit pas par des révélations du Saint-Esprit. Je répète. C'est un élément qui, chez certains, vont faire froid dans le dos, mais peu importe. Majoritairement, on ne vit pas avec des révélations du Saint-Esprit. Je répète, majoritairement dans notre vie chrétienne, nous ne vivons pas avec des révélations du Saint-Esprit. Nous avons la parole, Dieu nous parle par sa parole. Pratiquez en premier la parole. La parole, c'est Dieu qui nous parle. Tous les jours, Dieu te parle. Ouvre la parole, Dieu va te parler. Sans aucun problème. Maintenant, Dieu va te parler aussi par son Saint-Esprit. Mais ce n'est pas la majorité des cas où Dieu va te diriger. Dans sa volonté spécifique, il va te donner des grandes lignes. Puis plus tu obéiras, plus il va commencer à précisément t'expliquer ce que tu dois faire. Ça, c'est vrai, tout à fait. Et il y a des fois où tu sentiras simplement dans ton cœur, tchouk, mais il n'y a pas besoin d'une parole pour ceci, il n'y a pas besoin d'une parole pour cela, il n'y a pas besoin d'une parole pour faire un pas ou pour faire deux pas. Ça, c'est du mysticisme. Je répète, ça c'est du mysticisme. Et attention, parce qu'il y a beaucoup de gens qui se plantent avec ça. Ils veulent être ultra, super, extra sensibles au Saint-Esprit. Oui, mais attention, regardons les fruits d'abord. Moi j'aime beaucoup le Saint-Esprit, vraiment. Je passe des temps vraiment super dans la présence de Dieu que j'aime vraiment. Mais je vais vous dire une chose, je ne suis pas en train d'être du style à vouloir recevoir une parole toutes les 5 minutes. pour ouvrir la porte et fermer la porte. Vous voyez ce que je veux dire? J'exagère un peu, c'est fait exprès. D'accord? Soyons clairs. Soyons clairs. Par contre, quand tu as des décisions importantes à prendre, oui, bien sûr, tu as absolument besoin d'être dirigé par le Saint-Esprit. Ça, on est tout à fait d'accord. Mais d'une manière générale, vous avez une église, vous savez ce que vous devez faire. Jésus l'a déjà dit. Ou si vous voulez une parole de Dieu, lisez Matthieu 28. Prêchez l'évangile, faites des nations des disciples. Amen. Voilà, vous avez la direction. Il n'y a pas besoin de plus, il n'y a pas besoin de dire « Le Seigneur m'a parlé, il m'a dit, je dois faire des disciples. » Non, il n'y a pas besoin, tu as déjà ça. C'est déjà ça. Tu l'as déjà. Il n'y a pas besoin. Vous voyez, beaucoup de gens vivent une sorte de mystique. Alors, ce qui fait qu'il y a certaines personnes qui, je dirais, par exemple, s'il y a un vrai prophète, il y a quelques vrais prophètes dans le corps de Christ, mais vraiment, les gens sont attirés comme des mouches dans ces réunions-là. Et je suis désolé. Le ministère prophétique a sa place, mais dans les mouvements de Dieu. Je crois qu'on en a parlé hier avec vous. D'accord ? Faites bien attention à ça. Ok ? Voilà, c'était les parenthèses que je voulais rajouter. Amen, alléluia. Bon, alors, nous avons donc... Maintenant, on va parler des cinq phases par lesquelles une église locale doit passer. Les cinq phases par lesquelles une église locale devrait passer. Parce qu'on va voir que la majorité des églises ne passent pas la première phase, malheureusement. Et ça, c'est dramatique. Une église locale doit passer par cinq phases, normalement. Ça, c'est vraiment la volonté de Dieu. Et malheureusement, la grande majorité des églises locales ne passe pas par ces cinq phases. La première phase, ça va être la phase de démarrage. Allez, vous allez noter ça rapidement. Phase de démarrage, on va y rester, je pense, pendant cet enseignement. Ensuite, il y a la phase de stabilisation. Démarrage, stabilisation, pour ceux qui prennent des notes. Démarrage, stabilisation, établissement, troisième établissement, quatrième expansion, cinquième passage du témoin, comme les courses de relais. On appelle ça en anglais legacy, pour ceux qui comprennent l'anglais, succession si vous préférez. Passage du témoin, succession. Donc phase de démarrage, phase de stabilisation, phase d'établissement, phase d'expansion et phase du passage du témoin ou de la succession. Waouh, tout un programme. Oui, tout un programme. Mais c'est le programme de l'Église. Si vous voulez vraiment avoir un programme complet pour une Église locale, ces cinq phases doivent s'y trouver. Alors, on va commencer à parler de la phase du démarrage. Alors, phase du démarrage, c'est vraiment la phase la plus délicate et la plus difficile. On va comparer l'église à un avion. Vous savez, un avion, quand il veut décoller, il part à un point spécifique, et il commence avec la vitesse zéro. Son objectif n'est pas simplement de rouler sur la piste. D'accord ? Malheureusement, il y a beaucoup d'églises qui restent sur la piste et qui roulent sur la piste. Les aéroports des églises sont grands. C'est méchant et sarcastique. Je me reprends. Donc, l'objectif d'un avion n'est pas de rester sur la piste. Sinon, il va rester à son point de départ. Son objectif, c'est d'arriver quelque part. Et donc, l'avion va d'abord prendre de la vitesse et c'est là où il doit mettre le plus d'énergie. C'est là où c'est le plus difficile. Puis après, il va commencer à élever ses roues du sol, ce que beaucoup d'églises n'arrivent pas à faire. Ou comme dans les dessins animés, elles font comme ça. Boum, 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 comme ça. Le pilote n'est pas très bon. Et elle commence donc l'avion commence à prendre de l'altitude, puis après, il va acquérir donc sa hauteur, hein, à une certaine altitude, donc il reste à une certaine altitude. Okay ? J'aime bien comparer les trois premières phases avec justement la phase de décollage et la mise en altitude de l'avion. Parce qu'en fait, dans la phase de décollage, c'est le moment où il y a le plus d'énergie qui est donnée et où on fait le moins de distance. Oui, je répète. C'est là où il y a le plus d'énergie à donner et c'est là où on fait le moins de distance. Ensuite, quand l'avion commence donc à monter, à prendre de l'altitude, ça va être la phase de stabilisation. Et là encore, hein, quand vous montez, vous voyez, par rapport à la distance, eh bien, il y a un angle. Donc vous faites moins de distance encore que quand vous êtes vraiment en altitude. Et ce sera la phase d'établissement. Donc nous allons parler de la phase du décollage. Et la phase du décollage, c'est vraiment une phase extrêmement difficile. Parce que se lancer dans l'aventure divine, nous avons beaucoup de candidats. Les écoles bibliques sont remplies de candidats. Les gens qui disent « j'ai un appel de Dieu », il y en a à l'appel dans le corps de Christ. Mais si tu as l'appel, il va falloir que tu prennes le balai. Ça, c'est plus difficile au début. C'était une grosse blague bien grasse dans les églises de Pentecôte. Les stagiaires restaient 10 ans pasteurs stagiaires. C'est un peu difficile. Mais bon, on apprend. Et en fait, dans ces moments-là, c'est vraiment, on reçoit le temps de Dieu. Et c'est l'euphorie. On ne parle plus des gens qui dérapent, qui essaient de faire une œuvre de Dieu alors qu'ils n'ont pas d'onction. On suppose maintenant, on a passé, c'est pour ça que je vous ai fait une introduction dans les heures que nous avons passées avant. On suppose que déjà, c'est clair, vous êtes sûr, vous êtes bien dans la volonté de Dieu. Au bon moment, au bon endroit, à faire la bonne chose. Vous avez trouvé votre place, finalement, après 20 ans de prière et de jeûne.
Amen.
Vous avez trouvé votre place. Ouf. On va démarrer. Et là, d'un seul coup, il y a une visitation du Seigneur. Le Seigneur nous montre une grande vision. Et on est dans notre salon. Et il y a vous et madame et vos 3 enfants. Et vous êtes en train de prier. Et l'église a démarré.
Amen.
Bon, c'est bien. Et alors, les prophéties fusent. Les rêves sont là pendant la nuit. Tout est là. Et il y a l'euphorie du démarrage. Euphorie fantastique, quand nous démarrons quelque chose, si vous avez démarré une société, vous étiez aussi dans l'euphorie du démarrage, mais quand l'URSSAF vous est tombé dessus au bout de quelques temps et les impôts, vous êtes réveillé, c'était un peu plus difficile, n'est-ce pas? Vous n'étiez plus dans l'euphorie du démarrage. Eh bien, avec l'église locale, ça va être la même chose. Au début, c'est l'euphorie. Thierry, j'ai appris que tu démarrais une église. Vraiment, je suis avec toi. Et vous avez toutes sortes de choses qui se passent, toutes sortes de gens qui viennent. Alors c'est très intéressant de les observer, c'est vraiment très marrant. Quand on a un peu de recul, c'est trop drôle de voir ça, parce que malheureusement, au début, on n'a aucune expérience. Vous savez, quand on a de l'expérience en tant que pasteur, par exemple, moi si aujourd'hui je devais redémarrer une église, je pense que j'éviterais une multitude d'erreurs. Parce que c'est classique, on fait tous des erreurs, et vraiment de graves erreurs. Le tout, quand nous faisons des erreurs, c'est de ne jamais persévérer dans nos erreurs, mais de faire de ces pierres d'achoppement des marchepieds. Je répète, de faire de ces pierres d'achoppement, qui sont nos erreurs, des marchepieds pour aller plus haut. Parce qu'un marchepied, ça vous aide à aller plus haut. Une pierre d'achoppement, ça vous fait tomber. Et il y a un grand secret pour un serviteur de Dieu, c'est d'apprendre justement à changer ces pierres d'achoppement en marchepieds. Parce que quand on fait des erreurs, si on persévère dans nos erreurs, c'est là où le décollage ne se fera jamais. Alors, le démarrage, combien ça dure en général? Normalement, une église doit démarrer, au bout de 2 ou 3 ans, elle doit finir sa phase de démarrage. En général, 2 ou 3 ans. Le démarrage, c'est là où Dieu va faire les premiers miracles. Vous avez les bons contacts. Comme vous êtes dans la volonté de Dieu, obligatoirement, Dieu va ouvrir des portes. Vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous faire la louange. Au début, c'est un peu scabreux. C'est une guitare à 3 cordes en Afrique. J'exagère, etc. Mais au début, bon, on bricole, ce qui est tout à fait normal. On bricole au début, c'est tout à fait normal. Bon, il n'y a pas beaucoup de sous, chacun met un peu de sous, chacun fait ce qu'il peut. Puis vous avez quelqu'un qui commence à se joindre, qui apprend justement que vous démarrez une œuvre, il se joint, lui il a un peu plus de sous, il vous aide un peu plus. Bon, etc. Puis au début, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on démarre chez soi, on démarre avec un groupe de prière, ce qui est tout à fait normal. Mais après, il va falloir louer quelque chose. Il va falloir commencer à trouver le minimum pour, je dirais, avoir un départ tout à fait honorable. Mais il faut dire, il y a beaucoup de gens qui seront là. Bon, il y a des gens qui sont visiteurs au départ. Ils voient qui vous êtes. Certains cherchent des places. Ils veulent des places de pasteur à côté de vous. Ils cherchent à avoir des responsabilités absolues en essayant de vous montrer le meilleur d'eux-mêmes. Et puis finalement, comme vous êtes dans l'euphorie du démarrage, vous êtes aveugle. Vous prenez n'importe qui et tout le monde. Des gens qui ont de bons motifs et des gens qui ont des motifs absolument épouvantables. Mais ça, vous ne le savez pas au début. Le temps révèle les cœurs. Je répète. Le temps révèle les cœurs. Je répète. Le temps révèle les cœurs. Ce n'est pas quand tout va bien ou qu'on est dans l'euphorie du démarrage que vous voyez réellement les bonnes personnes autour de vous. Et un pasteur doit s'entourer des bonnes personnes. Et ça prend du temps pour qu'il les trouve. Les cœurs vont être creusés et éprouvés. Et rappelez-vous ce que je vous ai enseigné hier, c'est dans la tempête où on voit les bons matelots. C'est pas le moment de faire une rébellion. Vous voyez ? Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. C'est dans la tempête où ils font des histoires. C'est là où on voit le cœur réel des brebis. Si vraiment les brebis sont attachées. Donc dans cette phase de démarrage, voilà, vous avez des visiteurs. Et puis, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que votre église, quand vous démarrez une nouvelle église, une nouvelle œuvre, votre vraie église, ce sera vos nouveaux convertis. Moi, j'ai vu des églises se faire avec des chrétiens mécontents des autres églises. Et croyez-moi que le pasteur, au bout de quelques mois, il a souffert. Ah, il s'est ramassé des rebelles. Et croyez-moi, quand vous avez des gens qui ont fait des histoires dans 3 ou 4 églises qui viennent dans votre église, pour la simple et bonne raison que c'est une nouvelle église et que peut-être ils pourront vous dominer, à ce moment-là, vous êtes très mal. Vous avez des histoires assurées. C'est clair. Je le dis et je le redis. Hein, bien sûr, si c'est des gens qui ont déménagé, il n'y a pas de problème, qu'on soit bien d'accord. Mais des gens qui vraiment sont partis avec des histoires. Je ne veux pas dire ce que je n'ai pas dit. Sinon, là, moi, Thierry, tu vas avoir 5 personnes ici? Non, plus. Je suis dur, là. Et en fait, donc, bien sûr, si c'est des déménagements, etc., ça, il n'y a pas de problème, des proximités, ça c'est OK, d'accord. Mais votre vraie église, ce sont vos nouveaux convertis. Et les nouveaux convertis, il faut aller les chercher dans le monde. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent dans l'église, frère. Je suis un vrai pécheur. Il paraît qu'ici, il y a une église et qu'il y a un pasteur et qu'il paraît qu'on parle de Jésus, ça m'intéresse. Non. Vous en avez de temps en temps qui se convertissent comme ça, mais c'est très rare. Donc ne considérez pas que les gens vont venir chez vous. Il va falloir aller les chercher, les pécheurs. Il va falloir aller les percher. Oui, les percher aussi, c'est vrai. Mon cerveau parfois se fatigue un peu, excusez-moi. Et en fait, ces nouveaux convertis, c'est vraiment la base de l'église locale. Avec un nouveau converti, si vous avez tout ce qu'il faut, vous allez avoir un bon produit. Amen. Je parle aux commerciaux aussi. Un commercial. Businessman. Et en fait, c'est ce qu'on voit. Avec les nouveaux convertis, c'est facile. Ils n'ont pas poussé tordu, ils n'ont pas handicapé spirituel. Ils n'ont pas une réputation qu'ils ont ruinée partout avec tous les pasteurs du coin, qu'ils vous cachent réellement en vous disant que le Seigneur m'a dit d'aller dans votre église. Donc vous êtes tranquille. Avec les nouveaux convertis, c'est facile. Vous êtes là, ils sont là, brrr, un peu de lait, brrr, hop, c'est bon. Vous leur donnez les bons enseignements du départ, vous les démarrez bien et vous allez les former et ils vont être impeccables. Quelque temps après, leur dit « Oh, tu sais, tu peux faire un peu d'accueil. » ils sont là à l'heure, ils aiment le Seigneur. Il y a la flamme du premier amour et profitez-en, vous en avez besoin. Amen. Alors maintenant, ceux qui cherchent à se faire sortir les autres et des autres églises pour les amener dans leur église, aïe, ils savent pas ce qu'ils sèment ces gens-là dans leur propre ministère. Ah, ils creusent la tombe de leur ministère. C'est clair. Mais c'est très clair. Parce que ces mêmes gens qu'ils auront amenés avec les problèmes qu'ils ont, ils vous feront des divisions dans votre église. Ils vous sortiront tout un tas de gens, ils vous casseront votre église. C'est très clair. Par contre, vos nouveaux convertis, moi j'aime trop les nouveaux convertis. Franchement, on peut faire des trucs super avec eux. On peut les amener, si le pasteur est un bon leader, un bon capitaine, il peut les amener où il veut pour construire l'église de Dieu. Et ça, c'est génial. Ça, c'est super agréable. Maintenant, ça ne veut pas dire que des gens qui viennent dans l'église, il y a des gens, ils ont besoin, parce qu'ils crèvent dans une église, parce qu'il y a des problèmes épouvantables, etc. Il y a différentes raisons. Ça, c'est un autre problème, un autre thème qu'on pourrait aborder, qui est aussi très, très délicat, il faut le dire. D'accord ? Parce que changer de famille, c'est pas facile. C'est pas facile. L'église est une famille. On doit s'intégrer. C'est pas seulement venir au culte 2 heures le dimanche matin. Je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Vous voulez une bonne église ? C'est pas en passant 2 heures ensemble tous les dimanches que vous aurez une bonne église. Oh, on va aborder un thème dur ce matin. Si on démarre une église, il va falloir bosser. Il va falloir se consacrer. Ah, il va falloir mettre de l'énergie spirituelle, morale, financière, tout ce que vous voulez. Toutes les ressources humaines possibles et imaginables. Et le capitaine, il a intérêt à bien savoir naviguer dans ces cas-là. Parce qu'il va falloir qu'il réunisse des gens et motive les gens. Le pasteur doit être un motivateur. Le pasteur doit mettre des gens qui commencent à servir dans l'église. Parce qu'au début, le pasteur, il est obligé de brancher la sono le dimanche matin avant de venir. Il est obligé de nettoyer un peu la salle parce qu'elle est restée sale de l'autre réunion, personne n'est venu, etc., etc. En fait, il est obligé de tout faire. Un pasteur, au début, il fait tout. Moi, j'ai changé les huiles de mes voitures, j'ai fait plein de trucs. J'ai été mécanicien, j'ai été sonorisateur, j'ai tout fait au début. Tout fait, de A jusqu'à Z. Tout fait, j'allais dans les quartiers, enfin, c'était toute une histoire, enfin, c'était plein de trucs. Mais bon, au début, on est obligé. On est obligé parce qu'on n'a pas un noyau suffisant. Parce qu'on est encore sur la piste en train de rouler et le capitaine, le pilote, c'est le pasteur. Et il tire la charrette et tout le monde est derrière. Et pour l'instant, personne ne suit vraiment. Mais c'est difficile. C'est cette phase de démarrage. Et dans cette phase de démarrage, il y a un engouement très important. Et ça, il ne faut pas le louper. Ça veut dire qu'il y a des gens, il y a un petit groupe de gens qui sont là, mais ils sont motivés normalement. Et ça, il va falloir, si on veut démarrer rapidement et réellement passer cette phase de démarrage, il va falloir utiliser ce catalyseur. Parce que dans une église locale, il y a des moments où il y a des catalyseurs qui permettent une croissance. Ça, c'est clair. Et ça, il faut les trouver. Et il y a des fois, on est là, on mouline, on est fidèle, il ne se passe pas grand-chose, on donne un bon message, on a une bonne louange et adoration, mais bon, c'est pas l'euphorie, quoi. On sent que ça va, mais les gens se construisent. Et d'un seul coup, Dieu veut nous amener dans un autre palier. Et là, si le pasteur ne sait pas quoi faire, qu'il ne met pas la bonne voile, il est foutu. S'il met son spi alors qu'il a un vent contraire, il est foutu. Il fait marche arrière, parce que le spi va l'emmener de l'autre côté. Donc, il faut absolument être hypersensible. Alors, il y a une euphorie au départ, et malheureusement, les gens sont contents parce qu'il y a l'euphorie. Alors voilà, l'église passe de 20, 30, ah, ça marche bien, le pasteur est content, coup de téléphone de son ami, comment ça va l'église? Super. Génial. Mais au bout d'un moment, le réveil va se faire. Les problèmes commencent. Ah, non mais moi, le Seigneur, je suis pasteur. Moi, je prêche simplement les histoires, les problèmes d'un tel, de madame un tel qui n'est pas contente aujourd'hui parce qu'on n'a pas fait la Sainte Cène, de monsieur Truc qui n'est pas content parce que le pasteur lui avait demandé de le visiter et que le pasteur n'a pas pu venir le visiter. Et alors, il commence à faire des histoires et on commence à... autour du pasteur. Et les histoires commencent à se faire. Les problèmes. Oui, pasteur, moi je ne veux plus donner ma dîme parce que finalement, je ne sais pas ce que vous faites avec l'argent. Attendez, on est des frères et sœurs, je pense qu'il y a quand même une confiance. Et le pasteur, il dit, bon, au début c'est pas organisé, l'association est mal organisée. Parce que là aussi on a un problème d'association. L'association c'est une vraie galère. L'association est un système démocratique. Et on doit mettre l'église sous une association. Et le problème, c'est que l'association n'est pas adaptée aux églises. C'est pas du tout adapté. La structure juridique n'est pas adaptée. Alors en France, avec les bons Français, on n'a pas trop de problèmes. Mais avec les Africains, on a des coups d'État. Je vous assure, je suis sérieux avec vous. Moi, j'ai failli avoir un coup d'État il y a quelque temps. Mais malheureusement, les gens ne savaient pas qu'ils s'attaquaient à l'onction de Dieu. Et ça c'est mal fini pour eux, c'est tout. C'est normal. Mais c'est clair. On a un problème quelque part. On a un problème qui est mal adapté. Un bon pasteur doit s'entourer de gens qui juridiquement sont costauds. Parce que là aussi, vous avez des problèmes en France. On vous traite de secte, on vous traite de tous les noms. Et il faudrait se défendre un peu d'ailleurs. Ce serait pas mal. Ensuite, financièrement, c'est pareil. Une église doit être... Parce que très souvent, un des problèmes majeurs qu'on voit dans la plupart des églises, c'est que au bout d'un moment... Quand les finances rentrent, il y a des petits problèmes qui se passent. Les gens commencent à parler sur le pasteur. Dans certaines églises, c'est comme ça. Nous, en Afrique, on est obligé d'être ultra clair et ultra transparent, parce qu'il est vrai qu'il y a pas mal de serviteurs de Dieu qui font n'importe quoi, qui détournent l'argent de l'église. Ou ils se font financer, ils ont financé un truc, et par exemple, on dit, voilà, on veut des instruments de musique, on va donner tant d'argent, etc., et on ne voit jamais des instruments de musique dans l'église. Alors au bout d'un moment, il y a une perte de confiance. Par contre, l'intégrité, ça paye. En France, c'est plus la rébellion, c'est plus les problèmes. Vous avez plus de problèmes en tant que pasteur de gens qui veulent contester l'autorité spirituelle. C'est pour ça que j'ai insisté sur l'autorité spirituelle. un manque de soumission, de compréhension, de soumission. Parce que chacun se dit, non, moi je suis un homme, hein, ok, donc je peux dire ce que je veux dans l'église. Non, tu peux pas dire ce que tu veux dans l'église. En tout cas, si je suis le pasteur, tu diras pas ce que tu veux dans l'église. Je te le dis à l'avance. Je préfère prévenir plutôt que guérir. Amen. Donc, y a un certain nombre de choses qui se passent à propos de vous donner des responsabilités. Il y a des gens, vous apercevez que finalement leur vie n'est pas très claire. Et d'un seul coup, le pasteur s'aperçoit qu'il a donné une responsabilité à quelqu'un qui est dans le péché. Aïe. Donc, ça fait des problèmes. Ça crée des problèmes. Alors, il faut vraiment savoir que si vous voulez une bonne église, il va falloir passer du temps dans la prière. Il va falloir se consacrer. Il n'y a pas de secret. Pas de prière, peu de puissance. Beaucoup de prières scripturaires, beaucoup de puissance. Et ça, ça demande du temps. Si vous voulez une église où vous faites seulement des réunions, je vous dis, le dimanche matin, et éventuellement une fois par semaine, vous n'avancerez jamais. Je vous dis à l'avance. Une église qui marche, c'est une église où les gens sont motivés à se mettre ensemble pour chercher la face de Dieu. Ça, c'est clair. Ça, c'est très clair. Je vous le dis et je vous le redis. Je vois beaucoup d'églises locales, elles se plaignent d'avoir 40-50 membres, mais ce n'est pas étonnant. Ils passent soit des temps complètement morts dans la prière, ou soit ils ne passent pas de temps dans la prière. Les gens viennent le dimanche matin, 10h, il est midi, bye. À la semaine prochaine, pasteur. Si vous voulez ça, vous n'aurez pas une église qui marche. C'est pas possible. Il va falloir renoncer à y. Oui, je répète, il faut renoncer à certaines choses. Si vous voulez faire couscous brochette tous les dimanches, hein, et tous les week-ends, jamais consacrer des soirées. J'ai pas dit une, j'ai dit des soirées. Nous, l'église, c'est tous les jours presque. Enfin, j'exagère un peu. Je me dis, oui, mais on peut pas faire ça en Europe. Non, mais attention. Même aux États-Unis, on a vu des églises qui commençaient à vivre des choses puissantes, où les gens viennent régulièrement à l'église. L'église doit être votre vie. Aïe, je répète. L'église doit devenir votre vie. Vous voulez une bonne église? Vous voulez vraiment expérimenter quelque chose? Il va falloir qu'il se passe quelque chose. L'église doit devenir votre deuxième maison. Alors ça, ça ne me plaît pas du tout ce que tu dis ici. Oui, mais je suis désolé. Si vous ne passez pas du temps ensemble, dans l'adoration, dans la présence de Dieu, du temps ensemble à vous édifier dans la parole, qu'il n'y a pas un désir de quelque chose, que vous ne voulez pas construire ensemble dans une même vision, mais vous n'aurez jamais une église, vous aurez une boutique. Ça, je vous le dis, franchement, je suis honnête avec vous. Il n'y a pas d'église qui a réussi, qui a vraiment décollé, qui n'a pas passé des heures et des heures et des heures et des heures dans la prière. Parce que ça s'enfante, une église. Une église s'enfante. Et croyez-moi que ça ne s'enfante pas dans la joie, ça s'enfante dans la douleur. Il y a... Et vous savez, ici, il y a plein de gens à amener au Seigneur. La majorité des Français n'ont jamais entendu le vrai évangile de Christ. Donc, du boulot, il y en a. Manque pas de boulot. Maintenant, des gens motivés, il y en a beaucoup moins. Alors on se plaint que les églises n'avancent pas, mais c'est normal, les gens ne sont pas motivés. Moi j'arrive dans des églises des fois, mais les gens ils sont tragiquement morts. Il n'y a pas de désir. Ils ne sont pas passionnés par les choses de Dieu. Comment voulez-vous expérimenter quelque chose dans votre église si vous n'êtes pas passionné par Dieu et les choses de Dieu? Si vous mettez tout en avant, les choses de ce monde en avant. Les désirs de ce monde en avant. Des fois des désirs tout à fait légitimes. Il y a un prix à payer pour décoller. Et ce prix, ça coûte cher. Ça coûte cher en temps, ça coûte cher en consécration, ça coûte cher en finance, ça coûte cher dans tous les domaines. Une bonne église, ce sont des gens qui sont capables de passer du temps ensemble et régulièrement, de renoncer à certains plaisirs de la vie. Ici, il y a un million de trucs qui vous attirent. Excusez-moi. Il y a un million de trucs qui détournent votre attention. Vous avez un truc, ah tiens, un petit truc là, pendant 2 heures, vous allez jouer avec, vous avez perdu 2 heures. Vous savez la différence entre les enfants et les adultes, surtout les messieurs, c'est simplement le prix des jouets. femme, vous ferez un serment à votre mari tout à l'heure. C'est le prix du jouet. Mais franchement, vous voulez réussir une église? Il va falloir passer du temps. Du temps dans la parole. Si vous voulez qu'un serment dure 30 minutes, ok, on peut faire. 30 minutes, il n'y a pas de problème. Mais il y a des ingrédients obligatoires. Toute église qui est passée, qui arrive à un succès, qui arrive vraiment à décoller réellement, c'est une église qui va se consacrer, qui va chercher Dieu, qui va se mettre dans la vraie doctrine de la parole, qui va passer du temps à louer et adorer Dieu, qui ne va pas compter le temps. Je sais, ce n'est pas toujours facile en Europe, parce qu'il y a les enfants, parce qu'il y a certaines obligations, parce que des fois l'église est un peu loin, etc., etc. Mais je suis désolé, quand on est motivé, on est motivé. Il faut savoir ce que vous voulez. Ça, je vous le dis à l'avance, il faut savoir ce que vous voulez. Si simplement vous voulez avoir, bon, une église, ou si vous voulez vraiment avoir une église. Tout dépend de ce que vous voulez. Si vous voulez qu'à l'intérieur de votre église, il y ait des choses qui se passent, des nouveaux convertis régulièrement, des gens touchés par la présence de Dieu, des gens remplis du Saint-Esprit, des guérisons, parce que c'est bien de chanter, gloire, oui, c'est super. On veut, Seigneur, étends ta main, Seigneur, étends ta main, et nous allons dormir. Non, non, il va falloir bosser. Dans la phase de démarrage, et d'une manière générale, c'est du boulot. Moi, ça fait 15 ans que je n'ai pas pris de vacances. Et je travaille 7 jours sur 7, et ça ne me gêne pas. Des fois, j'aimerais bien qu'il n'y ait pas que 24 heures au jour, qu'il y en ait 30. Des fois, oui, je me dis, c'est pas vrai, il faut déjà que je rentre à la maison, il est 21h. Et j'avais des trucs à faire, je voulais encore écrire des trucs, je voulais encore contacter des gens. Parce que c'est du travail. Il y a des gens qui pensent qu'une église, il y a des gens qui rentrent dans le ministère, ils pensent que l'église, c'est prêcher le dimanche matin 2 heures et une fois par semaine. Et le reste, rester à la maison sur un canapé. Non, l'église, ce n'est pas du tout ça. Le serviteur de Dieu doit beaucoup travailler. Le ministère, c'est du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot, du boulot. C'est très clair. C'est du travail. Quelqu'un qui veut réussir son église, il doit bosser dur. Des gens qui l'entourent doivent être aussi des gens qui veulent bosser dur. Vous devez avoir un esprit de service si vous voulez bien démarrer avec votre pasteur. En lui disant, pasteur, voilà, moi j'ai des dons, maintenant, je suis à ton service. Il y a une expression que je n'aimais pas entendre quand j'étais aux États-Unis. C'était le fils de Kenneth Hagin Jr. qui nous enseignait sur l'église et il nous disait, il faut servir le pasteur. Et nous, avec ma femme, on disait, non, on ne sert pas le pasteur. Ben si, on sert le pasteur. Eh oui. Parce qu'en servant le pasteur, tu sers celui qui est loin de Dieu. Et tu sers le Seigneur. Oui, mais je ne suis pas d'accord avec ce qu'il veut me faire faire. Soumission. Quand il y a vraiment un engouement dans l'église locale, il y a des choses qui se passent. Les gens ont un esprit de service. L'amour, vous savez, c'est pas simplement, ah, pasteur Thierry, on t'aime. Bon, tu t'occuperas de terminer, de ramasser la salle, enfin toutes les saletés. Non, 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 c'est pas comme ça que ça marche. C'est vraiment se disponibiliser pour les autres. Vous savez, on parle souvent d'amour, mais on a plus l'impression que c'est un sentiment charismato-planant. C'est pas ça l'amour. L'amour, ce sont des actions. L'amour, c'est une attitude de service par rapport à l'autre. Tu te disponibilises. S'il faut rester une demi-heure en plus, tu restes une demi-heure en plus. S'il faut rester une heure en plus, tu restes une heure en plus. Mais tu sers le Seigneur. Tu sers ton pasteur. Tu entoures ton pasteur. Et dans la phase de démarrage, le pasteur, il doit tout faire, tout faire, tout faire, tout faire. Et pour lui, ça va être un peu difficile de repérer les bonnes personnes. Repérer les bonnes personnes, c'est quelque chose d'extrêmement difficile. Maintenant, parlons finances. Dans la phase de démarrage, il y a des églises, elles sont toujours au sol. Toujours au sol. Et ça, c'est pas normal. Le serviteur de Dieu doit être clair. Lui s'engage envers les brebis s'engagent envers le serviteur de Dieu. C'est très clair. Moi, je vois des pasteurs qui ne sont même pas salariés pendant des années et des années. En Afrique, moi, je ne suis pas salarié, mais j'ai des avantages en nature. Parce que je suis missionnaire et c'est difficile encore d'avoir un salaire. Mais tôt ou tard, j'aurai un salaire. J'ai pris une décision. La Bible dit clairement qu'on doit vivre de notre ministère. À partir du moment où quelqu'un prêche l'évangile, il doit vivre de l'évangile. Et aujourd'hui, en Afrique, moi, on me paye ma maison. C'est l'église qui paye ma maison. Je roule en voiture aux frais de l'église. On a deux voitures à disposition. Essence, assurance, tout ça, c'est compris. Électricité, tout ça, c'est compris. Mais au début, c'était pas compris. Et il a fallu souffrir. Mais au bout d'un moment, il est normal que l'église puisse faire quelque chose pour son pasteur. Salarié son pasteur. Et dans la phase de démarrage, ce qui est difficile au départ, c'est qu'il faut trouver aussi un local. Et je sais qu'actuellement, vous n'avez pas de local dans cette église. Et ça vous pénalise immensément. Vraiment, ça vous pénalise immensément. Et il y a beaucoup d'églises qui démarrent, par exemple, elles louent une salle d'hôtel comme ça, pendant 10 ans. L'argent perdu. Dommage. Des salles de droite et de gauche. Et il n'y a pas de secret. Si vous voulez passer cette phase de démarrage, il faut que vous soyez dans un endroit. Et trouver un bon endroit. Et ça sera peut-être un défi financier. Mais c'est tellement simple. Il suffit simplement que le pasteur vous dise, chacun rajoute 50 euros tous les mois en plus de sa dîme. Oui, mais je dois payer mon téléphone portable. Ok. Vous voulez une bonne église ? Il y aura des sacrifices. Mais des choses très simples. Vous savez, moi j'ai appris à faire une chose avec mes brebis. Je leur dis toujours, s'il y en a un ou deux qui portent un lourd fardeau, c'est difficile. Si on est 100, c'est facile pour tout le monde. Et c'est très très simple. C'est un principe qui est très simple. Si chacun de vous, vous servez dans un domaine de l'église, l'église peut exploser. S'il y en a trois qui servent, c'est la galère. C'est la même chose financièrement. Quelques-uns qui donnent, et les autres qui ne donnent pas, ou peu, on ne s'en sort pas. Il y a un engagement. Il faut savoir où on veut aller. Il faut savoir où on veut aller. Des fois, en rajoutant chacun un peu, on peut se louer une belle salle quelque part, régulièrement. Et vous avez besoin de trouver un bon bâtiment dans un bon emplacement. Ça, je tiens à vous le dire. C'est une grande clé d'une phase de démarrage dans une église. Trouver un bon endroit. Nous, par exemple, à Bujumbura, moi, je voulais être au centre. Ça, tout au départ, j'ai dit, je vais être au centre. On a trouvé vraiment une façon, je dirais, miraculeuse, la salle où on était. C'était une salle de 200 places, avec les chaises. Il y avait de la moquette par terre. Waouh ! La moquette sur les murs. Waouh ! Et après, on a pu avoir la climatisation dans la salle. Waouh ! Parce que j'ai toujours voulu une chose, c'est être dans le meilleur endroit. Et toutes les autres églises sont sous des tôles en général. Des tôles avec des espèces de hangars. La grande majorité. Il n'y a que quelques-unes, surtout les dénominations ou des gens qui ont de l'argent de l'extérieur pour leur bâtiment. C'est tout. Mais on doit choisir ce qu'on veut. L'endroit où on est aussi est décisif au démarrage. Rapidement. Parce qu'une fois qu'on a terminé de remplir notre salon, eh bien il faut aller quelque part. Alors la plupart des églises font une erreur. Je le vois beaucoup en France, c'est elles se mettent dans des garages. Le problème des garages, c'est très pratique jusqu'à 60 personnes, mais le problème c'est que c'est toujours dans un quartier, au milieu, donc dans une zone pavillonnaire bien sûr, et c'est toujours difficile d'accès. Et quand vous avez une difficulté d'accès dans le démarrage d'une église, vous aurez du mal à attirer des gens qui ont, je dirais, qui n'ont pas de véhicule par exemple. Et il faut de tout dans l'église de Dieu. Il faut des gens riches et il faut des gens beaucoup moins riches. C'est tout à fait normal. Et là, il faut être assez stratégique. Il faut vraiment flairer le bon truc. Et parfois, quand on est un peu subtil, comme on sait que les finances vont être un peu justes, qu'est-ce qu'on fait ? On essaye de trouver un endroit où, je dirais, on peut peut-être sous-louer une partie. Il faut être un peu malin. Nous, par exemple, à Bujumbura, on loue maintenant une grande salle de 700 places. C'est le plus grand auditorium qui existe actuellement louable à Bujumbura. 7 jours sur 7. Et là aussi, vraiment, le Seigneur nous a ouvert des portes. Quand on commençait à faire pratiquement deux cultes pleins dans notre autre salle, eh bien, il a fallu qu'on ait plus grand. Et trouver plus grand, c'était, il n'y en avait qu'une. Et à l'époque, il y avait une autre église qui était là, et cette église a déménagé. Quelque temps après, c'est un inconverti qui a pris le truc, et croyez-moi qu'on a prié. Et puis après, je me suis arrangé avec cet inconverti qui faisait des spectacles pour lui louer la salle pour mettre un pied dedans. Et après, on a mis les deux pieds dedans, et après, on l'a mis dehors. C'est clair, parce que nous ça marche et lui ça marchait pas. Et ça ne risquait pas de marcher. C'est clair, nous devons prendre les choses. C'est à nous. On est là, on est dominé alors que nous devrions dominer. Il y a un problème là-dessus. Hein. Vraiment, on a un problème là-dessus. Il y a vraiment un message qui est puissant, qui est fort, qui doit entrer de plus en plus en nous. Nous devons apprendre à dominer dans nos situations. Et quand vous démarrez, il vous faut de la foi. Parce que quand l'euphorie est passée, bien, il y a beaucoup de pasteurs qui baissent les bras à ce moment-là, parce qu'ils commencent à avoir des problèmes. Ils comptaient sur 3 ou 4 familles, et les 3 ou 4 familles sont parties. Ils comptaient sur ça, ils comptaient sur ça, et finalement, tout part en cacahuète. Il y a un moment où c'est difficile. Et il va falloir de la foi, de la persévérance, et des gens avec un bon cœur, qui soient de bonne volonté, et un pasteur qui sache les motiver correctement. Quand vous avez ça, vous avez quelques ingrédients pour, je dirais, commencer pratiquement à décoller. Mais l'endroit où vous êtes, c'est très stratégique. J'ai vu une église un jour, une église au New Jersey. Nous avons des amis pasteurs, mais ils ont fait une erreur tragique un jour. Ils étaient dans le New Jersey, ils avaient une église jusqu'à 1000 membres. Belle église. Vraiment, ça marchait très bien. Très bon message, des gens qui prêchent très bien. Vraiment, il y a l'onction du Saint-Esprit, ils étaient très forts sur la louange et l'adoration. L'église s'appelait Living Praise Church, c'est-à-dire l'église de la louange vivante. Et franchement, c'était des gens qui étaient, dans les années 80 et quelques, c'était des gens qui étaient vraiment, je dirais, ils avaient le vent en poupe au niveau de l'église. Mais ils étaient dans un quartier qui n'était pas très chic. Bon, ils se sont décidés à déménager parce qu'ils avaient envie de s'acheter une maison. Vous savez, dans le ministère, quand vous avez trimé pendant 10 ans ou 15 ans et qu'au bout d'un moment ça va un peu mieux, bah vous avez envie d'être un peu plus à l'aise. Hein ? Ne jouez jamais à dire au Seigneur, « Seigneur, toi tu gardes notre pasteur humble, nous le gardons pauvre. » Je répète, « Seigneur, tu gardes notre pasteur humble, nous le garderons dans la pauvreté. » Ou dans le... Hein, vous voyez ce que je veux dire. Un pasteur, il a décidé, parce que Dieu l'a appelé, à renoncer à une carrière professionnelle. Et il aurait peut-être été plus brillant que vous, en tout cas certains d'entre vous. Il a engagé sa vie. C'est pas à 45 ans qu'il peut se dire, « Bon, bah, mon église ne marche pas très bien, je ne peux pas vivre avec l'église, donc qu'est-ce que je fais? Je vais retrouver du boulot. » Parce qu'à 45 ans... Vous avez fait quoi sur votre curriculum? Vous étiez quoi? Pasteur. Bon, on va essayer de vous trouver un autre emploi de pasteur, mais ça va être difficile. Vous allez rester au chômage longtemps, monsieur. Vous voyez ce que je veux dire? Un ministère se trouve à engager sa vie. Alors c'est sûr que quand on est dans l'euphorie du démarrage, on est aveuglé. Mais quand on a fait 10 ou 15 ans... Les réalités de la famille, parce que nos enfants, vous savez, ils nous regardent. Papa, tu sais, le voisin, il a ça. Hein. Tu peux pas... Non. Ah, t'as pas d'argent. Vous savez, on l'entend parfois. Et des fois, ça fait pas très plaisir. Ah, si t'étais pas pasteur, papa, au moins, on aurait une belle voiture. On n'aurait pas une voiture qui tombe en panne toutes les 5 minutes. Et ce que je veux dire, j'exagère un petit peu, monsieur. Sachez qu'il y a beaucoup de pasteurs qui vivent comme ça et qui galèrent pendant des années et des années et des années. Parce que si le pasteur n'arrive pas à faire décoller son église, eh bien financièrement, sa famille va souffrir. Et croyez-moi qu'il y a des femmes de pasteurs qui pleurent. Et il y en a plus d'une. Parce qu'elles se retrouvent dans des conditions extrêmement difficiles. Alors il y a des gens qui savent bien tendre la main, mais il y a des gens qui n'ont pas, je dirais, cette honte de tendre la main et de dire, voilà, j'ai des problèmes. Grand silence, c'est normal. Donc, il y a un moment où vraiment, donc, cette euphorie du démarrage étant passée, il va falloir établir, il va falloir commencer, je dirais, falloir avancer au niveau du Seigneur. Le pasteur, lui, c'est le capitaine, il faut qu'il fasse marcher les choses. Les choses marchent des fois, les choses ne marchent pas d'autres fois. Il y a des moments difficiles dans la phase de démarrage. Je vous dis, c'est là où l'avion doit, hein, il doit mettre le plus d'énergie, c'est là où il fait le moins de distance. C'est là où il a le plus de mal à prendre son envol. Alors, pendant des années, eh bien, des fois, il faut trimer extrêmement dur. C'est pour ça que le pasteur, quand il est dans sa phase de démarrage, il faut absolument qu'il s'entoure de vision ou de réussite. Pour que constamment, il ne regarde pas au niveau où il en est, mais là où il veut arriver. Il doit se mettre là où Dieu agit, non pas dans certaines choses qu'il pense qu'il devrait faire. Donc c'est pour ça, on a parlé vision hier, parce que je vous dis, c'est constamment, ça doit constamment le motiver. Il faut qu'il ait les bonnes personnes. Et là, on commence à avoir un petit noyau qui se fait. Un noyau de 20, 30 personnes qui sont vraiment fidèles. Et on sent que ces gens-là, ils vont être attachés à la vision. Vous les avez bien attachés. Donc petit à petit, on décolle. Les rêves imaginaires, les illusions sont passées. On commence à être vraiment dans les réalités du ministère. Et finalement, on a réussi à décoller. Maintenant, il va falloir stabiliser l'Église. Phase numéro 2. Et ça, dans cette phase de stabilisation, il va y avoir beaucoup de choses à faire. Des choses qui sont très difficiles à faire. C'est que le pasteur doit grandir. Plus il grandit, plus l'œuvre va grandir. Il va falloir qu'il se remette en question. Parce qu'il a réussi à décoller, ok. Bon, c'est bon, on est au-dessus du sol, ça va. Mais là, il va falloir encore une énergie gigantesque pour amener l'avion à son altitude de croisière et à sa vitesse de croisière. Il va falloir accélérer et il va falloir prendre de l'altitude. Et là encore, on ne va pas faire encore beaucoup de distance. Et la phase de démarrage, vous savez, il y a beaucoup d'églises qui commencent à décoller un peu et pouf, elles retombent. Division, problème majeur dans l'église, problème du serviteur de Dieu. Parce que croyez-moi une chose, les serviteurs de Dieu sont terriblement attaqués. Il y a un moment où on perce, mais il y a des oppositions. Moi, dans mon ministère, j'ai eu des oppositions gigantesques. J'ai eu des défis gigantesques, énormes, spirituels, familiaux, financiers, etc. Dans tous les domaines, vous passez à la casserole. Rappelez-vous d'une chose, un fruit, on peut savoir quel jus il va produire seulement s'il est pressé. Et en tant que ministère, lisez l'Écriture, lisez 2 Corinthiens, vous allez avoir juste une petite touche de ce que Paul a vécu. Il n'y a pas de secret. Nous sommes mis sous des pressions gigantesques. Gigantesques. Le pasteur arrive à l'église, juste avant, il y a des gens qui font des histoires à la porte de l'église. Ils sont en train de contester ouvertement. Ça se voit. Quand vous arrivez, vous êtes prêt pour donner un bon sermon. Et il y a plein de choses comme ça qui se passent. Plein de réalités du ministère. Que les gens n'imaginent même pas. Oui, ils voient leur pasteur, il faut qu'il donne le meilleur, etc., etc. Mais derrière tout ça, il a peut-être passé une semaine épouvantable. Où il a pris des coups de partout. C'est pour ça que vous devez prier pour votre pasteur. Et régulièrement. Régulièrement prier pour votre pasteur. Donnez dans vos prières. Arrêtez de tourner vos prières autour de vous. Seigneur, je te remets cette journée. Seigneur, que tout soit bien pour moi. Seigneur, moi. Apprenez à semer dans la vie des autres par vos prières. Arrêtez de faire des prières égoïstes. Ça n'apportera rien. Semez. Semez pour votre église. Semez pour votre pasteur. Votre pasteur a besoin de vos prières, frères et sœurs. De la bonne prière, réellement scripturaire. Pas du bénis-le. Mais beaucoup plus. Des choses profondes. Et le Saint-Esprit va vous diriger. Et taisez-vous, n'allez pas le voir toutes les 5 minutes. Tu sais, pasteur, j'étais en train de prier pour toi et le Seigneur m'a dit que... Non. Prie tranquillement dans le secret de ta chambre. Et prie efficacement pour lui. Déclare la parole de Dieu sur lui. Déclare la parole de Dieu sur sa famille. Déclare la parole de Dieu sur le ministère. On a besoin de ça, frères et sœurs. On a vraiment besoin de ça. Il y a trop de pasteurs dans la phase de démarrage. Le diable absolument leur tape dessus. Et ils abandonnent. J'ai vu des ministères brillants commencer à décoller. Et boum, le crash. Je me souviens d'un frère qui était vraiment d'une éloquence. Waouh ! Partout où il passait, vraiment, les gens étaient attirés, l'écoutaient. Un bon message. Il avait un gros problème. L'argent. Et l'argent l'a fait tomber. Et croyez-moi, c'est pas seulement... ça se passe partout dans le monde entier. Hein. Il y avait l'histoire d'un évangéliste aussi, aux États-Unis. Brillant ! Mais le monsieur voulait s'acheter des Cadillacs pour faire comme les autres. Eh ben oui, il s'est couvert de dettes. Et son ministère a été ruiné. Il y a des gens qui ont un problème sérieux avec l'argent. Ils veulent vivre dans certaines hauteurs. On ne peut pas. Il y a des serviteurs de Dieu qui pensent que, parce qu'ils démarrent, et ils ont vu d'autres serviteurs de Dieu dans d'autres dimensions, ils veulent jouer le grand style de vie. Non. Attends, produis d'abord, et après le Seigneur te bénira. Tu pourras t'acheter une belle maison, une belle bagnole et tout ça. Oui, ça c'est normal. Chaque serviteur de Dieu doit vivre largement. Si l'Église est largement prospère, le serviteur de Dieu est prospère. Amen. C'est important, et c'est normal. C'est très normal. Mais c'est le fruit que tu as produit. Jésus, regardez, un texte que j'utilise souvent d'ailleurs, quand j'enseigne sur le ministère, c'est dans Luc chapitre 8. C'est un principe du ministère. Luc chapitre 8. Luc chapitre 8, il est dit, Jésus allait de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume. Les 12 étaient avec lui. Et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais, donc délivrées d'esprits mauvais, de maladies, Marie appelée Madeleine, et de qui était sorti sept démons, Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode, Suzanne, et plusieurs autres l'assistaient de leur bien. Qui assistait Jésus avec ses biens? Des gens qui avaient été touchés, impactés par son ministère. Ça, c'est très important à comprendre. Quand on est dans le ministère, ce sont les gens que nous touchons qui viendront bénir le ministère. C'est pas le contraire. Il y a beaucoup de gens qui veulent manger ce qu'ils n'ont pas semé. Et ça, c'est pas scripturaire et très dangereux. Quand un ministère a cette mentalité-là, il se plante. Il se plante. Ce sont des fondations qui sont pourries et il tombera obligatoirement. Il chutera obligatoirement. Il y a des choses qui sont très sérieuses. Vous savez, si nous, en tant que ministère, nous violons des lois spirituelles, c'est terrible. Je vous garantis, nous ouvrons une porte au diable et il nous démolit. Il nous démolit. J'ai vu des serviteurs de Dieu démolis, foutus. Des gens, vous leur parlez encore de Jésus, ils vous disent « Oui, oui, d'accord, mais tu sais, moi, avec ce que j'ai vécu, ils se sont fait démolir la tête. » Complètement, par terre. Ils sont plus rien aujourd'hui. Et des gens brillants. Des gens qui étaient même sur la scène internationale. Il faut faire attention. Vous savez, nous les serviteurs de Dieu, nous sommes les cibles du diable. Très sérieuses. Si le diable arrive à dégommer la tête, le corps, c'est fini. Et c'est classique. Si un pasteur se fait dégommer, il dégage. Si une église porte des fruits, le pasteur sera soumis à d'immenses tensions, d'immenses persécutions, d'immenses trucs contre lui, pour essayer de le dégommer, pour essayer de le démolir. Et s'il est démoli, les brebis vont s'éparpiller. Ça sera un désastre. Vous savez, nous, en tant que serviteurs de Dieu, on en subit des choses. Hein. Croyez pas que c'est tout rose. Loin de là. C'est une grande rémunération. Moi, je suis super heureux de servir le Seigneur, mais je peux vous dire une chose, il y a des souffrances qu'on subit et des sérieuses, des très sérieuses souffrances, des persécutions, des insultes, des injures, directes ou indirectes, vous savez, toutes sortes de choses, des coups qu'on nous fait de droite et de gauche, immense. Un jour, il y avait un serviteur de Dieu sur la scène internationale, vraiment un puissant homme de Dieu. Je crois que je vous l'ai dit déjà, ça. Sa secrétaire piquait dans les enveloppes. Ouais, je vous ai dit ça hier. Vous voyez, il y a plein de choses qui parfois se passent. Des gens qui ne s'attendent pas à ce genre de truc. Aux États-Unis. Et ça arrive. Donc vous ne faites pas d'illusions. Nous, les ministères, nous sommes sujets à toutes sortes de trucs. Et nous devons nous protéger. Nous devons nous protéger. Et vous devez protéger votre pasteur. Faites très attention à cela. Quand on est dans une église locale, on doit protéger son pasteur. Donc quand on est dans cette phase de démarrage, après on va se stabiliser. Et se stabiliser, ça demande beaucoup d'efforts. Là, le pasteur va devoir mettre les départements de l'église en place. Dans cette phase de stabilisation, il y a tout à mettre en place. Mettre un bon groupe de louanges en place, ça met du temps. Ici, vous vous débrouillez pas mal, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Beaucoup de travail à faire. Mais c'est vrai que vous avez une bonne base. Mais il y a un peu trop de voix aiguë. Il faudrait quelques hommes aussi qui chantent. Ça serait pas mal. Ça vous aiderait un peu. Constituer un bon groupe de louanges et d'adoration. Là aussi, c'est un catalyseur pour une église. Avoir vraiment des gens, vous arrivez à constituer vraiment un gros groupe. Nous, maintenant, dans l'église, on a quoi? Une quarantaine de personnes dans le groupe de louanges. Mais c'est pas suffisant. On est encore trop médiocre, j'estime. En tout cas pour moi. On doit aller vers l'excellence, pas seulement musicale, mais surtout d'abord spirituelle. Et ça, c'est le plus difficile. Le groupe de louange, c'est le département le pire à gérer dans une église en général. Vraiment, c'est... Là, vous avez de la chance, hein. Apparemment, ils sont calmes. Ils sont gentils. Apparemment, hein. C'est ce que j'ai vu maintenant. Mais c'est le pire des départements. C'est là où il y a le plus de vedettariat parfois. C'est là où il y a le plus de médiocrité aussi. Des gens qui veulent absolument jouer d'un instrument et ils jouent faux. Ils vous cassent l'onction. Ils vous disent, tu sais frère, je t'aime, mais vraiment, je ne pourrais pas faire un peu d'accueil, ça serait pas mal. Et alors, il faut manager ces sensibilités-là. Et alors, des fois, ça crée des histoires. Mais non, le Seigneur m'a dit que je devais être là sur l'estrade. C'est terrible des fois. Des fois c'est terrible. À manager ce département. L'aspect sonorisation aussi. C'est fondamental. Vous exercez le ministère et vous avez les feedbacks et vous avez tout dans les oreilles. Et le truc qui est mal réglé, les enregistrements qui ne sont pas faits, etc., etc. Enfin, toutes sortes de choses qui sont faites ou pas faites ou mal faites. Alors au début, c'est tout une histoire. Et c'est tout un investissement. Et dans la phase de stabilisation, il va falloir commencer à investir. Et la sonorisation, ça coûte une fortune. Récemment, une église ici en France a investi 120 000 euros dans un système de sonorisation. Et c'est pas énorme. Et 120 000 euros, il faut les trouver. Oui, je pense, je les vois qui rigolent, ça ne m'étonne pas. C'est une fortune, des bons instruments, etc. Mais encore faut-il qu'il y ait d'abord une qualité spirituelle. Que les gens qui sont là sur l'estrade soient sensibles au Saint-Esprit, qu'ils coulent dans l'onction. Et ça, c'est difficile à avoir. Quelqu'un qui dirige bien la louange et qui va rester dans l'église, c'est difficile aussi à avoir. Et là, souvent, si vous arrivez à avoir un nouveau converti, qui a des dons, vous le formez, au bout de quelques années, vous aurez quelqu'un qui va rester plombé, enraciné dans votre église. Et ça, c'est bon. Et ça va vous aider énormément. À moins que vous ayez des... J'aime pas trop les pasteurs, vous savez, qui chantent dans le groupe de louange, tout ça, parce qu'en général, ils perturbent beaucoup les gens qui dirigent la louange. Il y en a qui sont terribles avec ça. Il y en a qui ont des voix horribles. Et le gars va absolument chanter. Et alors, vous êtes là, vous dites, oh là 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 là. Cher pasteur, assieds-toi et prends la parole pour prêcher. Chacun ses dons, mon frère. Mais comme c'est le gouverneur, vous ne pouvez pas dire ça au gouverneur. Mais certains sont comme ça, c'est terrible. Et ils vous cassent ce que le Seigneur veut faire au niveau de la louange et l'adoration. Alors là encore, beaucoup de gens dans la louange et l'adoration, dans cette phase de stabilisation, ne comprennent pas qu'ils coulent au travers de l'onction qu'il y a sur le pasteur. Oh, je répète. Les départements de l'Église bénéficient de l'onction pastorale. Faites bien attention à ça, c'est un principe scripturaire. Rappelez-vous qu'il n'y a que 5 ministères. Et dans ces 5 ministères, l'onction pastorale, le ministère de pasteur, c'est le ministère le plus répandu. Et à partir du moment où vous servez dans l'église, vous servez sous l'onction pastorale. Vous bénéficiez de l'onction pastorale. Plus il y a d'onction sur votre pasteur, plus vous décollerez. Ça, je vous le dis. Hein. C'est pour ça que vous avez intérêt à prier pour votre pasteur. Priez pour le pasteur. Plus il y aura une onction, plus il sera visité par Dieu régulièrement dans sa vie personnelle et dans son ministère, plus il y aura d'onction, plus ça sera facile pour diriger la louange et l'adoration, plus ça coule. Ouf. Plus l'onction est forte à ce moment-là, et tout décolle. C'est important. Rappelez-vous, l'onction va couler à partir du serviteur de Dieu. Ça, je sais que ça ne plaît pas aux gens, parce qu'on a eu, dans les mouvements charismato-planants, on a eu l'habitude d'être très loin et de vivre nous-mêmes des expériences dans Saint-Esprit. Oui, tu vis des expériences dans Saint-Esprit, mais fais attention, sois pas trop planant non plus, sinon tu vas cracher. Il y a juste le bord de la montagne qui est pas très loin de toi, et j'en ai vu plus d'un qui a craché. Parce qu'en fait, il pensait qu'il avait sa propre onction. Et il n'avait pas sa propre onction. Moi j'en ai vu des gens dans notre ministère qui sont venus, des gens brillants. On a eu des super chanteurs, on a eu des gens qui jouaient. Il y avait un type qui a appris à jouer tout seul au piano, il joue. Nickel, avec des harmonies superbes. Il coule dans l'onction. Il est venu dans l'église, il ne savait pas grand-chose au niveau de l'onction d'un seul coup. Mais il nous a fait des histoires terribles, on a été obligé de le virer. Mais c'est dur de virer quelqu'un, vous savez. Bon, chacun fait ses erreurs. Mais c'est dur des fois. Parce qu'il n'avait pas le caractère, il explosait, ça devenait le vedettariat. Et pourtant, pendant une période, il coulait dans l'onction, ce garçon, c'était super. Moi j'aimais trop. Il jouait au piano, restait dans l'onction, et des heures, ça prit pour les gens. C'était vraiment fantastique. Mais, voilà. Donc sachez que quand vous servez sous le leadership pastoral. Vous bénéficiez de l'onction pastorale. Et ça, vraiment, je tiens à vous le dire et à vous le redire parce que c'est vraiment un principe qui est très important. Si vous voulez commencer à rentrer dans une réelle phase de stabilisation, il faut absolument comprendre ce principe. Vous servez dans l'équipe d'accueil, vous bénéficiez de l'onction pastorale. Quoi que vous faites dans l'église, vous bénéficiez de l'onction pastorale. Vous êtes dans des groupes de maison, soyez toujours complètement soumis à votre pasteur. Très important. Faites ce qu'il vous le dit de faire. Ne faites pas ce qu'il ne vous dit pas de faire. Parce que là, vous commencez à déroger. Vous dites, mais moi, mon groupe de maison, c'est mieux qu'à l'église. Combien de fois on a entendu ça? Et après, les gens se prennent la tête et ça fait des histoires épouvantables. Non, 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 non. toujours ramener, non, non, pasteur, t'as un problème, oh, ok, moi je peux pas m'en occuper, je vais voir le pasteur. Et les gens sentent qu'il y a un respect de l'autorité pastorale. Si vraiment ça rentre dans vos cœurs, je vous garantis, votre église sera forte. Parce qu'à chaque fois, non, 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 tu dois voir le pasteur, moi je peux pas m'occuper de ça. Oui, mais tu... Non, 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 va voir le pasteur. Oui, mais peut-être que... Non, 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 va voir le pasteur. Et les gens voient tout de suite que vous avez un respect pour votre autorité pastorale. Si vous le faites, vous serez béni, je vous garantis. Et l'Église se sentira beaucoup plus stable. Parce que tout est autour de l'autorité pastorale et de l'onction pastorale. Donc, dans cette phase de stabilisation, c'est dur, parce qu'on n'a pas encore toutes les finances qu'il faut. Donc, il faut équiper l'Église. Il faut équiper l'église en informatique. On n'a pas encore tout de suite l'argent pour avoir des employés. Parce qu'une bonne église doit avoir des employés. Moi, il y a certaines églises dans lesquelles je rentre, je vois, il y a quelque chose, il y a déjà quelque chose qui est déjà largement stabilisé. Ils en sont presque à certains stades où vraiment l'église est établie, pratiquement. Mais pas encore. Mais on rentre, bon, vous avez une secrétaire, on rentre, vous avez du personnel qui travaille, et on rentre, vous avez les pasteurs. Il y a quelque chose qui est là, mais là il faut un staff. Et pour avoir un staff, il faut des sous. Et un pasteur, il a besoin d'un staff au bout d'un moment. Nous, actuellement, nous avons 3 employés, nous sommes 2 pasteurs. Et on est encore dans cette, pour moi, on est encore dans la phase de stabilisation. Dans la phase de stabilisation, l'église commence, bon, à grossir. Verticalement, ça veut dire que les gens commencent à pratiquer vraiment la parole, ils commencent à grandir spirituellement. Et puis, les nouveaux convertis, il y en a de plus en plus. On commence à grossir, on commence à se multiplier. Donc, on commence à avoir un petit impact pour l'instant. Mais on n'est pas encore chez nous. On est encore dans des locaux qu'on loue. On a encore un peu de mal à payer le loyer. On a encore un peu de mal à s'équiper. Le pasteur ne peut pas être forcément salarié complètement, mais déjà, on peut le salarier peut-être à mi-temps. Vous voyez, dans cette phase-là, et là, le pasteur, vraiment, il continue à chercher le Seigneur. Il dit, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour faire mieux ? John Maxwell, je vous conseille fortement, vous connaissez John Maxwell, certains d'entre vous, je vous conseille très fortement d'acheter des livres de cet auteur. Il est excellent au niveau leadership. John Maxwell, il a écrit beaucoup de choses. Si vous êtes anglophone, il y a 70 bouquins. Si vous êtes francophone, il y en a 5 ou 6, je crois, traduits, c'est ça ? 2 ou 3. Bon, mais c'est déjà ça, ça commence. Désolé. Je conseille souvent aux chrétiens d'apprendre l'anglais parce que sinon, ça sera quelque chose qui va les limiter tout le temps. Ça, je vous le dis tout de suite. Si vous pouvez apprendre l'anglais, comprendre au moins l'anglais, ça vous aidera beaucoup dans votre vie spirituelle. Il y a beaucoup de ressources en anglais. Beaucoup plus. Et ça nous aide énormément. Il faut le dire. Cherchons là où les gens sont excellents. On ne cherche pas à les imiter. Et on cherche à puiser. Voilà la différence. Et John Maxwell a écrit beaucoup à propos de ça. Et il dit, en fait, si vous voulez faire grandir une organisation, eh bien, il faut faire grandir le leader. Si le leader grandit, l'organisation va grandir. C'est vrai dans le business. Il enseigne aussi dans le monde séculier, ce que vous appelez le monde séculier, des inconvertis. Et c'est vrai aussi dans l'église. Si le pasteur grandit, l'église va grandir. Et il y a des étapes, des couvercles que le pasteur doit lever lui-même dans sa propre vie. S'il n'est pas habitué à être un bon leader, eh bien il va falloir qu'il devienne un bon leader. Il va falloir qu'il change. Un pasteur doit être constamment ouvert au changement. Je vous dis, on parle de l'église locale, et j'ai prévenu le pasteur Thierry, je parle du pasteur, je parle aussi de la congrégation. Parce que les deux vont ensemble. Les deux forment une équipe. Si vous arrivez à former une bonne équipe, avec votre pasteur qui est le boss, vous irez loin dans l'église locale. Très important. Si vous n'y arrivez pas, vous irez nulle part. Et vous êtes appelé à aller quelque part. En tout cas, vous irez nulle part, si vous ne comprenez pas que l'église, c'est vrai, c'est une famille, mais c'est aussi une équipe. Et que le leader, lui, doit se renforcer, surtout dans la phase de stabilisation. Moi, j'ai dû me remettre dans tout ce qui est juridique. J'ai dû étudier les lois, j'ai dû chercher des trucs introuvables. J'ai dû voir comment mettre un système financier correct dans notre église. Parce que je suis un bon navigateur à vue, mais au bout d'un moment, quand l'église grossit trop, vous ne pouvez plus naviguer à vue. Vous savez, quand vous avez un budget, on dit « Ah, oh, on a un micro qui a pété. » Ok, vous savez, au début, on navigue un peu comme ça. On a eu un don qu'on n'attendait pas. C'est bon, on va pouvoir finir de payer notre loyer ou en payer un d'avance. Vous voyez, on navigue à vue. C'est normal. Comme les pilotes de petits avions, ils naviguent à vue. Mais les pilotes de gros jets, ils naviguent plus à vue. Ils ont tous les appareils qu'il faut pour apprendre à naviguer. Ils ont tous les radars, ils ont tout ce qu'il faut. voyez. Et au début, je dirais, bon, dans cette phase de stabilisation, le pasteur va devoir énormément grandir. Et il va devoir aussi commencer à mettre en place un staff. Et là aussi, il faut les bonnes personnes. Il faut des gens qui ne soient pas des fonctionnaires, l'esprit du fonctionnaire. Il faut des gens dévoués à une cause. Dans une église, c'est les gens dévoués à une cause qui aident le plus le pasteur. Non pas des gens qui veulent faire des 8 heures, 16 heures et 35 heures par semaine. Ça, non, ça ne peut pas coller. Je suis vraiment désolé de le dire, ça ne peut pas coller. Et il y a des gens qui, quand ils sont employés dans des ministères, pensent que ben finalement, ils sont comme des fonctionnaires. Non, il y a un boulot à faire. Il y a des tâches à faire. Alors au début, c'est des volontaires, mais les volontaires ont leurs limites. Vous pouvez pas être volontaire à mi-temps, c'est pas possible. C'est plus du volontariat. Donc au bout d'un moment, obligatoirement, avec le travail qu'il y a, il faut absolument avoir du staff, et du bon staff, du staff productif. Pas du staff qui veut lire sa Bible 3 heures par jour au boulot. Non, du staff qui est vraiment productif. Un staff qui comprend le ministère, qui est derrière le pasteur, qui fait tout pour arranger le pasteur, esprit de service. Un qui réussit très bien comme ça, ici en France, c'est le pasteur Yvan Castanou. Il a tout à fait le truc du leader typique qui, à droite à gauche, met en place des gens et travaille par influence. Et le pasteur doit travailler par influence, bonne influence, très important. Et vous pouvez le faire, il n'y a aucun problème. Je sais que nous, les Français de souche, on est un peu rebelles à ce genre de truc, mais je suis désolé, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que ça fonctionne. Si on veut réussir, il y a des principes pour réussir. L'église locale, je le dis, dans le domaine administratif, financier, social et tout ce que vous voulez, ça fonctionne comme un business. Un pasteur doit être un businessman. Amen. Apparemment, vous n'êtes pas convaincu. Il doit savoir manager. L'église doit se gérer au bout d'un moment comme un business. On doit avoir des budgets. On doit être capable de dire, bon, ben, cette année, voilà ce qu'on va faire. Parce qu'on a une vision. Le jour où vous voulez acheter un bâtiment, c'est pas en venant chez le banquier, on va acheter un bâtiment, oui, 2 millions d'euros, vous avez quoi? Oh, 2 000 euros en caisse, quoi. Non, il faut construire une relation avec un banquier. Et un pasteur doit construire une relation avec son banquier. Et au bout d'un moment, le banquier va voir qu'il y a vraiment des revenus réguliers. C'est pas compliqué, la compta d'une église, c'est quand même entrée-sortie, c'est tout ce qu'il y a. Ça vole pas très haut. Mais quand même, on doit faire un minimum de comptes comptables, etc. On doit créer une petite comptabilité qui n'est pas très complexe, mais qui doit être faite. Et avoir un budget. Et le pasteur doit régulièrement être un bon navigateur et expliquer à l'église, bon voilà, il se passe ça dans l'église au niveau budget. Parce que dans la phase de stabilisation, vous allez avoir besoin de sous. Sous. C'est très important. Parce que c'est là où vous allez commencer à un peu thésauriser en vue d'une acquisition. Et c'est fondamental. Il y a beaucoup d'églises, elles n'ont pas un rond. Tout ce qui rentre, ça sort. Bah, si vous allez voir un banquier, il vous dira, oui, c'est bien, bah, vous pouvez louer encore. Tout ce qui rentre, ça sort. Et c'est normal, le banquier, il n'est pas bête. Hein. Le banquier, il cherche à savoir une chose, il a un mot, solvabilité. Et comme vous êtes une association, en général, les gens sont très prudents. Les banquiers sont très frileux vis-à-vis des associations. Parce qu'ils savent qu'une association peut très bien marcher et du jour au lendemain se casser la figure. Et quand il y a des dettes, c'est toujours un peu délicat. Donc un banquier vous fera peu confiance facilement. Donc il va falloir construire pendant la phase de stabilisation, pendant plusieurs années, il faut construire petit à petit une relation avec votre banquier et avoir des budgets qui, si possible, quasiment doublent tous les ans. Ça serait bien. Quand vous montrez que vous avez du répondant et une croissance, un banquier intelligent dira, effectivement, on voit que les finances rentrent bien maintenant. Et là, il répondra positivement à une demande de prêt. Parce qu'une église ne peut pas acheter directement. C'est très rare qu'une église puisse payer cash quelque chose. TD Jakes, aux États-Unis, donc à Dallas, quand il a commencé son église, il est parti à Dallas parce que les gens de Géorgie ne voulaient pas de lui. Hein, de l'État de Géorgie ne voulaient pas de lui. Ils ont dit, non, on ne veut pas que tu sois là comme un prédicateur dans la région. Ok, il est parti. Il est parti à Dallas. Il a commencé une église et il a dit, il était étonné. La première fois qu'il commence son église, il a 1500 personnes qui viennent. Et il dit, il était un peu connu, mais enfin quand même, 1500, il démarre. Bon, aujourd'hui, il a une église de plus de 10 000 personnes. Et ils ont construit un bâtiment, ça fait combien, 13 ans, 14 ans, je crois, si mes souvenirs sont bons, qui sont maintenant à Dallas. Ils ont construit un bâtiment de 48 millions de dollars. Je répète, 48 millions de dollars. C'est énorme, gros budget. Et quand il a été voir son banquier, bah, ils, au moins ils avaient une partie, et ils pensaient en fait, je crois, faire un bâtiment de 30 millions de dollars, et finalement ils ont fait beaucoup mieux. C'est normal, l'excellence, c'est l'excellence. Et il a été voir son banquier au début était un petit peu réticent, et il a dit, quelles sont vos perspectives? J'ai besoin que vous me fassiez un plan dans l'avenir, où est-ce que vous allez? Et TD Jakes avait fait un plan un peu négatif, entre guillemets, c'est-à-dire très pessimiste, hein, dirions-nous. Et en quelques années, ils ont tout payé. Une église qui avance bien, c'est une église qui va prospérer. Mais la phase de stabilisation, c'est là où le pasteur doit commencer à se dire, bon, on est dans cette phase, il faut vraiment qu'on arrive, on loue un bâtiment, ok, d'accord, il y a une croissance de l'église qui se fait, ok, croissance spirituelle, croissance numérique, on commence à employer quelques personnes, mais maintenant, il va falloir aller plus haut. Toujours plus haut. Un pasteur doit toujours viser plus haut, comme un businessman. Si vous êtes dans le business et que vous êtes toujours au ras des pâquerettes, ou en train de vouloir faire des trucs qui ne marchent plus depuis 20 ans, vous pourrez prier, confesser la parole de Dieu, vous coulerez. C'est normal. C'est tout à fait normal. Nous devons régulièrement remettre en question certaines choses pour aller plus haut. Toujours, toujours, toujours plus haut. Il faut toujours penser plus, en termes de plus, en termes de multiplication, en termes, je dirais, je veux être dans ces hauteurs-là. Je n'y suis pas encore, mais je veux. Ça, c'est mon prochain objectif. Pas l'objectif final, mon prochain objectif. Et quand un pasteur est comme ça, il entraîne toujours sa congrégation à dire, bon, on a fait ça, c'est pas mal. Mais il faut qu'on aille plus haut. Une église, au bout de 10 ans, doit avoir acheté son bâtiment. Je ne dis pas qu'il a tout payé, mais en tout cas, avoir des options d'achat, avoir trouvé quelque chose. Et pas trop petit non plus. Pas trop petit. Normalement, dans une église, vous devez laisser à peu près 25 à 30% des sièges vides quand vous entrez. Et encore. Moi, j'essaye de réfléchir en termes beaucoup moins. Là, on va acquérir un bâtiment où on va pouvoir faire une salle de 3000 places. Et on a à peu près 900 personnes, à peu près. Parce que je sais que dans les années futures, nous allons atteindre même plus que ça. Et je n'ai pas envie encore de faire deux cultes. Vous savez, on avait fait un premier culte pendant 5 ans pratiquement. Pendant 5 ans, on a eu du mal à atteindre les 200. Et puis après, l'église a commencé à grossir d'un seul coup. Et on a commencé à faire deux cultes. Et on était encore dans l'hôtel où on a commencé tout au début. Et franchement, quand vous faites deux cultes, on rentre à 8h du matin à l'église, on sort, il est 14h. L'après-midi, croyez-moi, on va pas jouer au foot. On se repose pendant 2 heures écrasé. Et c'est normal. Parce qu'on a fait deux prédications, on s'est occupé deux fois de recevoir des gens, etc., etc. Et on veut que les gens soient bien servis. C'est très important. Quand un pasteur doit chercher à ce que quand les gens viennent, ils puissent être nourris, ils puissent sortir avec quelque chose dans leur cœur. Et puis, qu'il y ait quelque chose qui se passe. Que ce ne soit pas simplement venir à l'église comme si on allait dans une messe, entre guillemets. Mais il doit se passer quelque chose. Les gens doivent sortir nourris, avoir bien mangé. Donc il va tout créer pour cela. Et quand on a bougé dans l'autre bâtiment de 700 places, on avait 300 et quelques personnes, et rapidement on a connu encore une croissance, un autre mouvement de croissance. Et on était obligé de refaire deux cultes. Et franchement, c'est fatigant de faire deux cultes. Les églises qui font des fois 3 cultes, 4 cultes d'autres. Le pasteur est foutu après, il est complètement mort. Franchement, le lundi, il ne s'en remet pas. Hein. Le mardi, il commence à se réveiller. Et mercredi, il se remet au boulot. Parce qu'il ne peut plus. Et il est épuisé physiquement. Ah oui, non, des fois, c'est épuisant. Et plus vous avez de monde, plus ça, l'onction draine. L'onction est là, sur vous, et ça, c'est épuisant. Tant que l'onction est là, vous êtes en forme. Quand l'onction n'est plus en manifestation, c'est comme si on vous assommait. Il y a des moments, c'est difficile à supporter. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on doit toujours prévoir beaucoup plus grand. Ça montre aussi la vision. Alors, il y a certaines églises, ils prévoient trop grand, ils se font avoir. Donc, ils sont obligés de mettre un rideau pour mettre les gens plus devant. Bon, c'est une méthode. Il faut quand même être prudent. Des fois, il y a une bonne opportunité d'acheter un grand truc. Mais il faut avoir une grande vision. Accessibilité. D'abord dans la location. Ensuite, quand on bouge, je vous dis, ce pasteur qui avait cette église de 1000 membres, je vais pas continuer son histoire, je vais y revenir là. Quand il a déménagé à 40 km. Il a perdu la moitié de ses membres. 40 km aux États-Unis en voiture, bon, il y a des gens qui plus ou moins feront. Mais il y avait quelque chose que le Saint-Esprit voulait faire. Il n'est pas rentré dans ce nouveau mouvement que le Saint-Esprit est en train de faire. Il a déménagé au mauvais moment. ils ont acheté, ils avaient eu un mal de chien à pouvoir acheter ce truc-là, et c'était, moi, à mon avis, pas du tout la volonté du Seigneur, et aujourd'hui, je ne sais pas s'ils ont 200 membres dans l'Église. Eh oui, 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 pensez pas que parce qu'on atteint un certain niveau dans une Église, qu'il n'y a pas une pente après. Si le pasteur n'est pas un bon navigateur, il y aura une pente. Et ça fait mal, parce que on s'est engagé. Des fois, on a pris des crédits à la banque. Je le dis toujours, si une église prend un crédit dans une banque pour acheter un bâtiment, il ne faut pas dépasser les 30 à 35%. Même s'il y a des façons de faire qui nous permettraient d'avoir plus d'argent, si vous avez des remboursements de plus d'un tiers de votre budget, vous êtes foutu. Vous n'y arriverez pas. Vous ne vous en sortirez pas, vous allez étrangler votre église. Et là encore, le pasteur doit être un bon navigateur. Il doit faire très attention. Parce qu'un pasteur qui fait de mauvaises erreurs financières, il fait des erreurs financières, ça peut coûter cher à son église et les gens perdent confiance. Après, le pasteur est sous des contraintes financières et au bout d'un moment, il se prend à son propre piège. Ce qui fait qu'il se retrouve dans une condition où tous les dimanches, il est obligé d'insister, mais non plus vraiment dans un message réel, plus dans un message de pression, ce qui est extrêmement mauvais parce que les gens le ressentent. Vous savez, il y a une relation entre un serviteur de Dieu et sa congrégation. C'est une relation qui se crée. Relation de confiance, relation où on voit que la personne dit la vérité, parce que le Saint-Esprit est dans chaque brebis. Et les brebis sentent. Quand elles sont un tant soit peu sensibles au Saint-Esprit, je ne parle pas de gens charnels, mais des gens qui sont vraiment sensibles, il y a des brebis qui sentent très bien quand le pasteur est sous certaines pressions ou qu'il se retrouve coincé dans certains domaines et qu'il est obligé d'utiliser certains moyens du monde. Ça se ressent tout de suite, parce que le Saint-Esprit n'appuie pas les moyens du monde, il appuie la parole. Donc c'est un piège dans lequel on se retrouve. Donc là il va y avoir vraiment des moments difficiles. Le pasteur va se retrouver dans cette phase donc, de stabilisation, où il n'est pas encore, vous savez c'est comme l'avion quand il monte, vous savez on traverse les nuages, alors on est un peu comme ça, on est un peu secoué, on est comme ça aussi sur les sièges, vous voyez, parce que c'est pas encore une position très confortable, et c'est tout à fait la position de l'Église. Elle n'est pas encore dans une position confortable, le confort n'est pas là, on n'est pas arrivé à des objectifs très précis, on se cherche encore en tant qu'Église. Puis, on tombe sur quelques invités qui sont des clés, qui nous aident à aller dans d'autres niveaux, qui amène des dimensions dans l'Église différentes. Et là, l'Église commence à aller, à être propulsée de plus en plus loin. Mais ça coûte cher. Nous, par exemple, on a dû financer une croisade d'évangélisation. C'était au bon moment, vraiment, en 2005, où une évangéliste américaine est venue. Ben, ça nous a coûté 7 000 $. Et les 7 000 $, on ne les avait pas au départ. Et j'ai dit à l'Église, voilà, il y a telle servante du Seigneur qui va venir. C'était une sœur qui a travaillé avec René Howard Brown et elle est vraiment puissamment ointe par le Seigneur, et une puissante évangéliste. Elle est venue et on lui a dit, écoute, tu payes ton billet. Moi, je refuse que des gens viennent dans notre église et qu'ils soient obligés de tout payer. Ça, je refuse ça. Pour moi, c'est inacceptable. C'est pas parce qu'on est en Afrique qu'on est pauvre. Ça, je refuse ça. Et je dis toujours aux gens, c'est tous les serviteurs de Dieu qui sont venus chez nous, ils sont repartis avec une offrande, des sous. Pour moi, c'est important. Il y en a, ils voulaient nous le redonner. J'ai dit, non, partez avec votre semence. On ne veut pas louper la bénédiction. Ah, moi, je suis clair là-dessus. Vous voyez, parce que des gens voient et disent, oui, vous êtes sûr? Tu pars avec. Et des fois, c'est vrai qu'on en avait besoin. On en aurait eu besoin. Mais surtout, jamais faire ça. Il y a des églises qui loupent le coche avec ça. Parce qu'elles sont dans des difficultés financières, elles oublient de semer dans des ministères. Et elles se plantent. Et elles décollent jamais. Ou elles ne se stabilisent jamais. Vous voyez? Donc dans cette phase, c'est là où il y a certains serviteurs de Dieu qui vous aideront. Nous, par exemple, dans ces moments-là, eh bien, on a eu cette servante du Seigneur. Elle est restée 10 jours. Et on a pêché 700 âmes. Dont 150 sont restées dans notre église. C'était un bon coup de filet. C'était pas mal. Mais c'était au bon moment. Vous savez, il y a parfois des gens que vous amenez dans votre église, ils sont orateurs, c'est pas au bon moment. Et bon, c'est bien, ça va, mais il n'y a pas d'impact après. Et ça, c'est important d'être très sensible. Et le pasteur doit être très sensible à ça. Très sensible à ça. Et en fait, dans ces 700, bon, il y en a à peu près plus de la moitié qui sont restés au Seigneur aujourd'hui, mais ils ont été dans d'autres églises, on a su parce qu'on a fait du suivi aussi. On suit les âmes, on ne veut pas laisser les âmes simplement s'approcher à un appel et bye bye. Et vraiment, pendant ces 10 jours, c'était super. Et vraiment, tout a été pourvu. Tout a été pourvu. Mais il a fallu, bon, on a parlé, on a prié, on a passé beaucoup de temps dans la prière aussi, pour qu'il y ait vraiment des conversions claires, parce que les fausses conversions, il y en a un paquet aussi, il faut dire ce qui est. Et on s'est motivé et on sentait un engouement. Il y avait vraiment un feu parmi les chrétiens qui se préparaient. On était des fois 200 dans des réunions de prière. On priait ensemble. On passait du temps avec le Seigneur. On cherchait le Seigneur. Et on priait pour cette croisade. On priait pour ces temps où on serait visité par le Seigneur. Et vraiment, on implorait le Seigneur pour qu'il y ait un impact, justement. Donc, il y a des moments dans cette phase de stabilisation où il y aura des gens clés qui vous aideront à grandir. Et ça, c'est très important. Ce sont des étapes. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut les réinviter tout le temps. C'est une erreur qu'on fait aussi souvent. Mais il y a des étapes qui vous permettent de grandir, de grandir, de grandir. Vous savez, quand vous avez une église de 1000 ou 2000 membres, c'est très facile d'avoir des invités. Quand vous avez 40 membres, c'est difficile d'avoir des invités. C'est clair. Parce que les grands prédicateurs, voudront souvent ne pas venir dans des petites églises. C'est clair. Ça, je vous le dis à l'avance. Par contre, vous pourrez avoir des invités de plus en plus, entre guillemets, qui ont un gros impact, qui ont des gros ministères, qui ont des plus grosses onctions, à partir du moment où vous êtes un nombre suffisant de chrétiens. Et c'est là où est la difficulté au départ. Parce que c'est le pasteur qui va bosser, bosser, bosser avec sa congrégation pour que les âmes viennent au Seigneur. Il va falloir qu'il mette en place un département d'évangélisation. Et là aussi, ce n'est pas évident de motiver les gens dans l'évangélisation. Et il y a aussi des choses qu'on peut utiliser. Il y a plein de ressources. Un immense conseil que je donne, et on en a parlé avec le pasteur Thierry, c'est que dans l'église locale, il faut faire un centre de formation. Ça vous aidera beaucoup. D'abord, c'est une ressource pour l'église locale. Et faire une école biblique à temps partiel, soit par vidéo, soit avec des orateurs, etc., etc. C'est plus difficile avec des orateurs. Le mieux, c'est de le faire par DVD ou quoi que ce soit. Mais c'est quelque chose qui est important. Nous, on a démarré, et évidemment, on avait l'Institut biblique juste à côté. Ça a été une ressource super. Pendant 2-3 ans, vous formez des gens, et après, ces gens-là que vous mettez, responsables de différents départements, ce sont des gens qui parlent le même langage que vous. Ce n'est pas des gens qui sont tordus, ou qui vont vous prier pour d'autres personnes. Par exemple, moi, quand je fais des appels pour le baptême du Saint-Esprit, que ce soit à l'Institut biblique, on a fait ça il y a quelques semaines, moi, j'ai mes conseillers, j'ai simplement une annonce à faire dans l'église. Conseiller, vous venez, au bout d'un mois, on démarre l'Institut biblique tous les ans maintenant, on prie pour que les gens soient remplis du Saint-Esprit. Et bon, comme cette année, on a 80 et quelques nouveaux étudiants, il y en avait environ une quarantaine qui n'avaient pas le baptême du Saint-Esprit en tant qu'étudiants, ben, ils viennent. Moi, j'ai juste à prier une prière générale, et après, mes conseillers, ils font le reste. Ils savent le faire, et j'ai aucun problème. Ils amènent les gens au baptême du Saint-Esprit. Et j'attends le bon moment pour faire la même chose avec des équipes de guérison. Parce que je sais que ces gens-là, s'ils prient pour d'autres, il n'y a aucun problème. J'ai une confiance totale en eux. Parce qu'ils sont formés, parce qu'on parle le même langage, on parle le langage de la foi. Ils savent très bien ce que c'est que le baptême de l'Esprit. Ils savent très bien amener les gens au baptême du Saint-Esprit. La plupart sont des responsables de groupes de maison. Je sais ce qu'ils donnent, je sais s'ils prient pour des gens, qu'est-ce qui va se passer, etc. etc. Donc j'ai pas de problème. C'est une immense ressource. Et ça aussi, ça attire des gens aussi. Le fait qu'il y ait un institut biblique quelque part, au niveau de l'église locale, ça va beaucoup attirer des gens et ça va stabiliser énormément le noyau dans la phase de stabilisation. Ça permet au pasteur d'avoir tout un tas de ressources. Bon, comme je vois qu'il est tard, nous allons clôturer pour ce matin.
Enseigne-moi.com.
Enseigne-moi.com, le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Le site numéro 1 d'enseignement chrétien.
Enseigne-moi.com.
Parce que son peuple périt, faute de connaissances.
Enseigne-moi.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.
Toute la parole de Dieu, sans compromis.